Gameblogueur, gameblogueuse, eh bien bien le bonjour, bienvenue dans le podcast de la rédaction. Aujourd'hui émission 170, une déjà émission qui vient, et eh oui Julo,
déjà
qui vient faire le bilan du mois de janvier 2011. Vous le savez, hein, c'est la tradition, hein, tous les premiers mercredis du mois, on revient sur l'actualité du mois passé. Et après un podcast dédié à une grande question, à une grande problématique qui a été particulièrement vivant, houleux, animé, un podcast qui était dédié la semaine dernière à cette grande question qui était les consoles portables vont-elles mourir, qui vous a fait énormément réagir. Et c'est aussi ça, hein, c'est le jeu du débat, c'est pouvoir s'exprimer pleinement et puis encore énormément forcément d'interrogations qui se posent, alors que Poufy est complètement mort de rire devant la caméra, je ne sais pas pourquoi.
Je pense que la réponse est à ma droite.
D'accord. Et bien aujourd'hui donc c'est le bilan. Alors pour ça, et bien Rahan, Julo,
Coco
et donc Trazom, ouais, sont
allô,
avec nous, ça va?
Allô, qu'est-ce qui se passe?
On vient de réveiller Traz. Et tout à l'heure, on sera rejoint aussi par Tiger Suplex, qui vient nous donner son expertise sur certains jeux, puisqu'on parlera bien sûr des événements majeurs, et ça a été un mois de janvier 2011.
Costaud.
Absolument hallucinant.
Mais en fait, c'est comme ça tous les mois. C'est
incroyable.
C'est juste dingue.
Ah ben, on avait quand même annoncé que l'année 2010 avait été exceptionnelle, mais qu'on sentait l'année 2011 partir sur des bases encore plus élevées. Et ben alors, dès le premier mois, ça ne rate pas.
Hein. On vient à peine de passer en février et là, bam.
C'est assez hallucinant. Donc, les événements principaux, la conférence Nintendo 3DS qui a fixé la date et on va dire quelque part le prix des premiers jeux de lancement. On va revenir donc sur nos premières impressions. On était avec Rahan
à Amsterdam.
Voilà, j'ai été troublé parce que j'ai dit on était. La troisième personne, c'est une catastrophe. Donc avec Rahan, il y avait aussi la conférence NGP, donc qui a officialisé cette nouvelle console portable de Sony. Aussi la conférence Square Enix First Production Department Première.
Ils ont toujours des noms surpuissants.
Ouais. Hallucinant, ouais.
En fait, c'était une conférence, quoi.
Tout à fait. Et alors qu'il était, pour ceux qui l'ont vécu, hein, les trois conférences, vous pouviez les vivre vraiment en live et en vidéo sur gameblog.fr. Mais alors, celle de Square, autant les annonces ont été belles, autant il y a des beaux
le
trailers,
cadre.
Etc. Mais alors, c'était,
c'était famélique, ouais.
Ah, mais c'était dans un placard.
C'était dans un placard.
Pour Square, c'était un petit peu bizarre. Ouais. On reviendra aussi sur les principaux tests du mois de janvier. Dead Space 2, Little Big Planet 2, Mass Effect 2, Mario Sports Mix. Donc des destinées assez variées, on va dire. Et puis les news principales. On fera un petit focus aussi sur une belle initiative, celle de Look at My Game, de deux Français, hein, ex du studio Exki, un studio marseillais, qui se lance un petit peu comme ça dans la création de jeux communautaires participatives à l'image d'une
production,
de ce qu'on connaît avec My Major Company par exemple dans l'univers de la musique. Mais traditionnellement, vous le savez, on commence très rapidement par un petit tour d'horizon des nouveautés Gameblog, l'info du site directement. Eh bien, vous l'avez vu, hein, depuis quelques jours, c'est l'arrivée d'une petite refonte des tests vraiment conçue pour vous. Tu nous en dis un petit peu plus, Rahan ?
Ouais, effectivement, comme on l'a expliqué un petit peu dans la news afférente à cet événement, on s'est dit qu'il était vraiment temps de pouvoir avoir en un seul coup d'œil un peu un panorama de l'avis de la rédaction sur un jeu, ce qui veut dire un résumé clair, un résumé, hein, pas seulement une synthèse, mais vraiment un résumé du texte, et puis les points positifs, les points négatifs. Alors ça n'a rien de révolutionnaire évidemment, mais vu l'actu hyper chargée, le nombre de jeux, le temps qui passe de plus en plus vite un peu pour tout le monde, etc., on pouvait plus vraiment faire l'économie de ce genre de choses, donc on l'a implémenté. Et au passage, on a pu remettre un petit peu plus en avant vos tests, vos notes, votre avis sur les jeux, de manière à ce que ça soit accessible directement à cet endroit là ainsi que les avis du reste de la rédaction, puisque on utilise nous aussi évidemment cette possibilité de noter tous les jeux et puis d'émettre un avis plus personnel, différent un petit peu de celui du testeur et de la rédaction. Donc vous avez désormais accès à toutes ces informations au travers d'un nouveau bloc qui peut être placé en haut ou en bas des tests suivant votre préférence,
devenir dynamique grâce à la magie technique de Mr. P.
Exact. Et par-dessus ça, peut-être le truc le plus important sur lequel on peut peut-être revenir brièvement aussi, c'est la disparition des coups de cœur. Toujours été un peu délicat pour tout le monde en fait, nous pour les attribuer, vous pour bien comprendre pourquoi certains jeux avaient des coups de cœur, d'autres pas, etc. On est passé à quelque chose de plus simple, de plus évident, qui s'appelle les indispensables. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le petit macaron indispensable pour avoir accès à tous les jeux qui ont reçu ce macaron.
Et d'ailleurs, d'ici quelques temps, il y aura des petits réaménagements de cette zone là c'est-à-dire vous pourrez trier par console et aussi de manière chronologique. Ça va arriver là dans quelques jours, ça se trouve, même pendant qu'on est en train de vous parler. soirée.
Oui. Par genre aussi, hein, par parce genre, que c'est quand même important. Chacun son, ses préférences. Donc voilà, quelque chose qui se fait peut-être un peu attendre, mais qui est enfin là.
Exactement. Et effectivement, vous pourrez revenir aussi parfois un petit peu plus tard, quelques jours, quelques semaines après, pour voir. Parce que on parlait des notes de la rédaction. Oui. Ça vous permet d'avoir une moyenne des rédacteurs. Peut-être que vous appréciez plus la sensibilité d'un Rahan ou celle d'un Julot, mais que c'est pas cette personne qui a testé le jeu. Vous voulez voir combien il a attribué, comme s'il apprécie ou pas ce titre-là. Alors les notes seront pas forcément dès le day one, parce que c'est pas des fausses notes. Hein. On doit jouer un peu, on doit se rendre compte par nous-mêmes. Mais du coup, quelques jours après, probablement, vous aurez nos notes personnelles sur chacun des titres majeurs de l'année, et on a testé d'ores et déjà des vieux jeux, hein, donc vous allez voir, allez chercher sur d'autres titres, et comme ça vous aurez un spectre plus large et ça vous donnera une vision plus claire. Et maintenant c'est l'apparition aussi de moyennes chiffrées.
Oui, pour toutes les notes de la communauté, effectivement, même si au niveau des étoiles on affiche ça que en demi parce qu'il faut bien arrondir visuellement, mais vous avez une vraie moyenne décimale avec une virgule, etc., de toutes les notes de tous les lecteurs qui ont noté tel ou tel jeu.
Et bien sûr, ça ne change rien aux tests et aux critiques à proprement parler. Elles restent les mêmes, toujours avec du fond. Là, c'est juste pour avoir un avis rapide si vous avez peu de temps ou le découvrir d'une autre manière. Allez, une autre information clé de Gameblog ce mois-ci. Et bah, ça y est, on a, grâce à vous, franchi la barre des 20 000 membres sur la page Facebook de Gameblog. Et ça, on vous en remercie infiniment, d'autant pour répondre à l'interrogation de certaines personnes, que vous êtes très actifs, les membres Facebook. Chaque jour, c'est quasiment une petite dizaine de milliers de personnes qui du coup vient sur Gameblog par le truchement de Facebook, qui découvrait, commentait aussi directement sur la page Facebook. Et on le rappelle, hein, sur la page Facebook de Gameblog, bien sûr, vous retrouvez un condensé de l'actualité quotidienne du site, mais aussi très fréquemment des petites photos coulisses, ce genre de choses qu'on peut se permettre de balancer très rapidement avec nos téléphones dès qu'on est à un événement, que ce soit à l'étranger comme Rahan et Tiger qui alors on est en train de parler ne sont pas là mais sont en Angleterre. Et par exemple, ils peuvent vous balancer quelques images comme ça, vous pouvez le découvrir en temps réel un peu la vie, les coulisses du site. Et je me rappelle par exemple certaines photos de Julot et Traz
dans la panade.
Exactement.
Ah oui.
sur
le train,
sur un quai fantôme. Ouais, le fameux train qui était parti et qui s'était arrêté en cours cet été.
C'était pour l'IDEF,
pour les Arcanes.
Voilà, on s'était retrouvé sur
10 heures pour la Cannes.
Ouais. C'est ça.
On aurait dit elle encaisse. Oui. Il nous serait peut-être arrivé d'autres galères. Mais...
Ouais, tu te serais planté comme une merde.
Et bien justement, si je vous parle de ça,
puisque tu parles de
l'IDEF et de Cannes. Eh bien, la transition est toute trouvée.
Exactement, ça s'est fait exprès.
Gameblog, et on en est très honoré et très fier. On vous annonce le partenariat avec la World Game Cup qui se déroulera donc à Cannes. J'espère que le train sera à l'heure cette fois-ci. Du 25 au 27 février prochain, donc à la fin du mois. La World Game Cup, c'est simple, c'est la Coupe du Monde du Versus Fighting. Vous allez y retrouver les gros titres essentiels qui font les grands jeux de combat du moment avec quelques belles exclusivités. Et sur Gameblog, eh bien, Mimic sera intervenant direct avec Poufy directement là-bas. Ils vont vous faire vivre l'événement au plus près, une sorte de les yeux dans les bleus version Versus Fighting. On va carrément être avec les différents combattants chez eux, dans leurs hôtels, pour voir comment ils se chambrent, comment ils s'entraînent avant les compétitions. Et surtout sur gameblog.fr pendant tout le week-end et dès le vendredi, eh bien, vous aurez une page dédiée à la World Game Cup sur laquelle vous pourrez vivre en streaming live l'intégralité de l'événement. Et ça, c'est tous les combats, tout ce qui se passe sur la grande scène, les commentaires, ce sera en exclusivité sur gameblog.fr.
Commentaires français donc Ken Bogard que vous connaissez déjà, et puis les gars de Gros Point, voilà, qui vont nous faire ça.
Je sens que ça s'annonce être un très bel événement qu'on apprécie, qu'on connaisse moins ou pas le Versus Fighting. En tout cas, c'est à chaque fois
une vraie ambiance, ouais, un vrai truc. C'est-à-dire que même effectivement, si on connaît pas, il y a quelque chose à regarder. C'est pas comme le foot, par exemple.
et puis émerge véritablement de belles personnalités. Et c'est à la rencontre de ces personnes-là que Mimic et Poufy vont partir pour vous faire découvrir un petit peu ces joueurs exceptionnels, en rappelant qu'il y a une place, un ticket pour le Tuyeki à gagner. Donc on vous rappelle que les inscriptions sont encore en cours. Vous pouvez aller vous chercher sur Gameblog, vous tapez World Game Cup, il y a un lien pour aller vous inscrire. Il reste encore un petit peu de place.
si vous, êtes, vous avez quelques talents au bout des doigts, c'est l'occasion.
Ouais, et puis on reparlera du Versus Fighting dès la semaine prochaine avec un podcast dédié en fait à l'arcade. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est une grosse part maintenant de ce fameux retour de l'arcade.
Ouais, avec le responsable du Versus Dojo, une belle salle d'arcade parisienne.
Et Asenka qui est le président de la World Game Cup justement.
Voilà. Exactement, c'est la semaine prochaine. Et puis on conclut avec une news Gameblog mais qui est directement liée à vous hein, puisque c'est vous qui avez voté, qui avez élu votre Gameblog Awards 2010, le jeu, votre jeu préféré de toute l'année 2010. Alors ça a été plusieurs semaines de vote, hein, catégorie par catégorie, il y en a eu beaucoup. On s'excuse parfois, certains ont trouvé qu'il en manquait un tel jeu ou tel autre, etc.
Il faut bien faire une sélection.
Il y a un moment, voilà, informer c'est choisir, nous disent certains. Et du coup, votre classement, ça a été particulièrement serré pour la troisième et deuxième place. Ça s'est joué à un vote près au moment final de, où on a dû arrêter et clore les votes. On l'a laissé continuer derrière et à l'heure où on enregistre le podcast, les deux jeux sont à égalité finalement. C'est troisième position Heavy Rain, tant décrié mais finalement visiblement vous l'avez apprécié. Mass Effect 2 et en première place, et là en revanche
de très loin,
de raisonnablement loin effectivement, Red Dead Redemption qui est votre jeu coup de cœur de l'année 2010. Voici votre sélection: Red Dead Redemption, Mass Effect 2, Heavy Rain. Voilà, messieurs, on va pouvoir passer
au revoir, merci.
Au cœur de ce podcast, les événements, les temps forts du mois de janvier 2011. Et on va commencer tout naturellement, pas chronologiquement, mais par ce duel entre les deux consoles portables qui vont animer l'année 2011. Et commençons avec la Nintendo 3DS, c'était Amsterdam Raon. Qu'est-ce qu'on a pu découvrir ?
Bah écoute, on a pu jouer pour la première fois pour certains titres à des vrais jeux 3DS prévus, etc. Par rapport à des démos, parce que vous savez que la première fois quand on montre une console en général, c'est des protos
et des démos techniques.
Des démos techniques, etc. Mmh. Donc cette fois-ci, on a pu y jouer. Apprendre la date de sortie qui est donc allée au 25 mars de cette année.
En Europe, oui.
Ce sera la première des deux évidemment à sortir puisque la NGP c'est a priori prévue pour la fin de l'année. Mmh.
C'est juste un mois après le Japon, ce qui est cool.
Ouais, effectivement. On a un semblant de line-up de sortie aussi qui n'est pas forcément ultra finalisé en termes de date précise, mais enfin on sait déjà qu'il n'y aura pas de nouveau Mario le jour de la sortie, qu'il n'y aura pas de Zelda.
Pas de grosse licence Nintendo, quoi.
Voilà. Nintendo, a priori, le fait tout à fait sciemment pour un peu laisser la place aux éditeurs tiers, etc.
Qui gueulait.
Globalement, je crois que les jeux qu'on aura retenus, Julien, les plus importants en tous les cas, ceux qui nous ont peut-être le plus convaincus, ça va être Street Fighter 4.
3D édition
qui intègre une nouvelle vue. Alors il y a la vue traditionnelle, mais il y a aussi
la vue dynamique,
voilà, qui est un peu derrière l'épaule et avec quelque chose qui risque de faire rugir les férus de Street.
De plaisir,
mais
ou pas.
Sur l'écran tactile donc du bas, vous avez la possibilité pour les néophytes de déclencher directement des furies, des coups spéciaux.
Ouais, mais alors là ils ont évidemment pensé au truc pour les gros férus qui veulent pas se retrouver à se battre à la loyale, on va dire, contre des gens qui vont juste déclencher en appuyant sur le truc. Il y a une option pour pouvoir jouer en ligne uniquement entre personnes qui avaient désactivé cet écran, donc c'est pas un problème.
Ce qui nous a plu aussi sur ce Street, c'est le Street Pass, justement.
Oui, l'utilisation du Street Pass.
On rappelle un petit peu de quoi il s'agit.
Ben, c'est cette capacité qu'a la 3DS de communiquer en étant fermée avec d'autres 3DS sans forcément que le jeu soit dans la console. Et de récupérer donc des contenus, ça peut être, je sais pas, des cartes sur un Dragon Quest, etc. Et en l'occurrence pour Street, il y a un espèce de petit mode rigolo dans lequel on va pouvoir collectionner des figurines des combattants. Et les consoles, quand elles vont se croiser, il y aura un espèce de petit match
combat de figurines,
voilà, un combat. Et puis au fur et à mesure des victoires que vous remporterez avec votre 3DS, vous pourrez acheter des figurines avec dans le jeu en fait avec une.
Je trouve pas que ce soit l'utilisation la plus cool qu'on peut faire de cette fonction sur la 3DS, mais bon.
Pour un petit bonus sympa. T'aurais imaginé d'autres trucs hein,
ouais, je sais pas, non, mais tu parlais de Dragon Quest, etc. C'était vachement mieux. Quoi.
Ah bah oui, là, oui. C'est prévu.
Là, ça fait vraiment un petit bonus, quoi.
En tous les cas, c'est pas le seul jeu qu'on a essayé et qu'on a apprécié. Il y a eu Kid Icarus aussi. Bon, ça reste un rail shooter, mais c'était peut-être un des plus beaux visuellement qu'on ait vu. À peu près en jouable, etc. Parce qu'on rappelle, hein, il n'y avait pas Metal Gear Solid 3 en jouable. Il y avait. Toi, t'as joué à Resident Evil.
Mercenaries.
Alors, Resident Evil The Mercenaries 3D qui techniquement est assez redoutable, hein, vraiment très joli. C'était d'ailleurs la force de Resident Evil 5, mais à l'image de Resident Evil 5, c'était assez chiant à jouer. Et surtout, on a eu l'occasion de rencontrer le producteur du jeu, Monsieur Kawata, et
Celui qui refuse qu'on tire en marchant.
Ouais. Bah alors, c'était... alors non, le problème, justement, moi j'étais plein d'espoir parce que c'était pas lui Resident Evil 5, c'était Jun Takeuchi.
Ah, oui,
je me suis dit, oula, changement producteur, bon, bah ça y est, ils ont compris. Et je lui pose la question, je lui dis, bon alors Resident Evil 5, voilà quoi, il y a eu quelques critiques qui ont été... Vous avez adressé à ce genre de critique. Il a fait ah bah non. Enfin, c'est notre choix. On ne veut pas parce que sinon le jeu serait trop facile.
En même temps, le jeu a fait un carton. Hein.
Oui, 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 mais donc, de tromper une fois 1000 personnes, quelque chose, mais 1000 fois, bah bon. Je suis assez
prenez un chewing-gum
quand même. Et puis on rappelle.
En fait,
quand même,
c'est un ensemble de mini-jeux en fait.
C'est le mode bonus qu'on voit émerger depuis Resident Evil 4, qu'on retrouvait dans le 4 et dans le 5. Là, d'ailleurs, il y a différentes cartes qu'on retrouve de ces deux jeux, et ils en ont promis d'autres, bien sûr. C'est donc assez bourrin, on y va, on bastonne à tout va, etc. C'est la grande question, parce qu'on le sait qu'il y a deux Resident Evil qui sortiront sur 3DS. Mm. ne fais pas de bêtises, Trace. Il y a donc un deuxième Resident Evil qui, lui, sera beaucoup plus axé sur de l'aventure, ouais. Le survival horror à proprement parler.
Ce sera un vrai Resident, quoi, en fait.
La grande question, c'est est-ce que c'était pas un mode de jeu
Puis on peut en faire vraiment un jeu. Est-ce que tu te poses vraiment la question?
Non, comme je disais dans mes impressions, j'ai une semi-idée sur le fait que, bon, alors eux, ce qu'ils me disaient, c'est que c'est l'occasion aussi de se faire un peu la main sur la 3DS avec
un
le
peu de pognon.
MT Framework aussi forcément, le MT Framework mobile, ouais. Qui donc techniquement marche très bien, par contre en termes d'intérêt ludique, moi j'ai trouvé ça raisonnablement limité. Ouais.
Ce qui est peut-être pas le cas du Zelda, qui est peut-être le dernier gros jeu auquel on a joué et qui nous a vraiment convaincu. Enfin, en tous les cas, moi j'attendais assez impatiemment de voir jusqu'où ils iraient en termes de remakeage, et ils ont été assez loin finalement.
Bah, moi, ce que je... Alors, effectivement, pour répondre à... On va parler après de notre ressenti sur l'impression 3D.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est vrai que c'est quand même le truc le plus important. Bah, est-ce que c'est vraiment essentiel ou pas, quoi?
Non, mais on est super d'accord. On fait juste le petit tour rapidement des jeux, et après, vraiment, on va vous parler de l'effet, parce qu'il est très variable en fonction des jeux, très honnêtement, même si la promesse est là, hein, vraiment. Mais pour Zelda Ocarina of Time 3D, effectivement, ça a été revu, les textures sont un petit peu plus fines.
Les modèles 3D aussi, hein. Sur N64, les visages c'était genre deux polygones avec une texture plaquée dessus.
C'est vachement plus joli.
C'est beaucoup plus joli. Ouais.
Moi, c'est assez triste à dire parce que c'est un remake de plus, mais c'est le jeu que j'attends le plus sur 3DS avec Paper Mario.
Ouais.
Très joli. Mais visuellement, Ocarina of Time, là vraiment, il prend une autre dimension. Je trouve ça va être assez agréable de pouvoir y rejouer dans ces conditions-là. Surtout que moi, j'aime bien les nouvelles features, notamment celle qui permet,
grâce au
gyroscope, quand t'es en vue à la première personne, ou alors quand tu vises avec un arc, etc., de bouger la console directement, en fait, comme une fenêtre vers le monde
d'Hyrule.
Je trouve ça assez génial.
Moi, et on va du coup glisser dans quelques instants sur
la
réalité augmentée qui est finalement a été la très bonne surprise de ce voyage à Amsterdam, et finalement qui se révèle être beaucoup moins gadget que la 3D, mais c'est vrai que ça, avec l'option gyroscopique, c'est comme tu le disais, une petite fenêtre ouverte sur le monde, et donc il suffit de déplacer, par exemple si vous voulez regarder en haut, pas la peine de pousser le stick, même si vous pouvez le faire, vous brandissez votre console au-dessus de votre tête et vous allez voir vos pieds, enfin les pieds de Link, hop, vous baissez la machine.
Mais alors, ce qui m'inquiète un peu,
tu peux faire ça dans le métro ou dans le train.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais tu peux le faire au stick encore.
Oui, t'es pas obligé.
Apparemment, t'as le choix, mais moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu dois faire vraiment des gestes amples ou est-ce que juste en bougeant un petit peu, ça va
quand même.
Attends, juste ce qu'il faut, disons, t'es pas obligé d'aller vraiment comme un taré comme ça.
Ah, bah tu peux.
Tu peux le faire, oui, mais c'est pas. Pour viser, par exemple, à partir du moment où. Comme en fait tu prends le relais au moment où tu passes en vue subjective, c'est avec le bouton Y, tu passes en vue subjective, tu te balades normalement et tu joues à peu près normalement au jeu, et puis dès que tu passes en vue subjective, t'es déjà plus ou moins pointé sur l'endroit où tu veux viser, et après t'ajustes un petit peu comme ça. Moi j'ai trouvé ça très précis, extrêmement réactif, ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude il y a toujours un petit décalage, vous savez, un petit lag le temps qu'on bouge la console et que l'image s'ajuste, mais là c'était quasiment immédiat, et du coup c'est très efficace.
En tout cas, c'est une vraie bonne idée, hein. C'est le genre de truc qui peut faire évoluer le jeu vidéo justement dans le bon sens, avec des nouveautés qu'on n'avait pas avant, quoi.
Et puis Ocarina of Time, c'est quand même le plus grand jeu de tous les temps.
Ou pas.
Ils ont mis toutes les fameuses cartes qui sont un ustensile très utilisé pour les jeux en 3D, pour faire apparaître des choses à l'écran.
Alors parlons-en de cette réalité augmentée.
Cartas.
Parce que là de ce dont tu parles, c'est AR Games, qui est donc livré avec la console directement.
Il y a 6 jeux, c'est ça?
Alors,
6 cartes et donc 6 jeux, un truc comme ça.
Ah peut-être.
Si, si, il y a ses cartes, je te le confirme.
Nous, en tout cas, à Amsterdam, il y en avait un seul où effectivement on posait sa carte, donc avec un point d'interrogation sur n'importe quelle surface, une table, par terre, etc. Et donc, on l'avait déjà un peu vu à l'E3, mais là, ça a été peaufiné. Bah, cette carte crée, il faut être à peu près à 30 cm de distance initialement. Et là, pouc, il y a une petite boîte 3D qui apparaît dans votre univers, en fait, qui s'ouvre. Il y a une créature qui en sort. Et là, il faut tirer sur des cibles qui se trouvent sur son visage et certaines qui sont derrière ou sur le côté. Et donc là, bah, physiquement, vous devez vous déplacer. Ce n'est pas un stick que vous déplacez pour que votre viseur soit aligné avec l'objet à viser. Et ça marche vraiment bien.
Oui, oui, ça marche très bien. C'est le même principe aussi avec Face. Je vais encore me planter.
Raiders.
Face Raiders.
C'est voilà. En France, la guerre des têtes.
Et non pas Facebreaker.
Ouais. Qui est là encore un petit jeu qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de prétentions. Où on se prend en photo avec la 3DS. Le visage est replaqué sur des monstres et des boss. C'est un shoot, hein, tout bête. Et où on joue comme ça, pareil, avec le décor qui est autour de nous. Parfois, on peut même défoncer ce décor. Et
ce
du
décor
coup,
étant notre réalité.
Oui, hein. Oui, voilà. Effectivement, c'est ce qu'il y a autour de vous, quoi, vraiment. Et quand vous faites un trou dans ce décor, avec l'effet 3D, et du coup là ça devient un peu saisissant, derrière la réalité il y a une espèce de cosmos bizarre,
voilà, mais
avec la perception de la 3D, de la 3DS, ça fait un effet assez saisissant, quoi.
C'est comme si derrière notre propre réalité, votre mur de chambre, dans votre salon, etc., il y avait quelque chose. Et surtout quand vous tournez, parce que du coup votre ennemi qui est donc votre tête, mais qui peut être la tête de vos amis au fil des parties, etc.,
les gens que t'aimes pas,
par exemple,
est-ce que je peux te prendre en photo s'il te plaît?
C'est ça, pour te défoncer tout à l'heure. Voilà.
Tu veux dire que c'est une console métaphysique, c'est ça?
Non, mais alors ce jeu vraiment est très déroutant. Et donc il y a des petites indications à l'écran, genre va à gauche très vite et tout. Donc vous vous déplacez, là il y a la tête qui apparaît, vous tirez. Et donc ça crée comme ça. Et donc les trous que vous avez fait dans les murs restent. C'est-à-dire que
au même endroit, dans la vraie vie.
Voilà.
Donc, ah, c'est rigolo, mais c'est marrant que Nintendo mette pas du tout l'accent là-dessus. Alors c'est peut-être pour pas perdre un peu, enfin pour que les messages soient beaucoup plus simples et vraiment axés que sur
voilà,
la 3D.
C'est exactement pour ça. Évidemment. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est pareil pour le Street Pass.
C'est pur marketing.
Ils se disent que c'est un peu compliqué.
Il faut
expliquer aux gens,
une idée forte que plusieurs. Voilà. Quoi. Ouais.
Et donc la 3D relief. Alors,
qu'en pensez-vous? Bah, sur Zelda par exemple.
Bah, en fait,
moi déjà, il y a beaucoup de personnes qui critiquent la 3DS ou qui sont tristes et qui font ouais, mais finalement, alors, d'autant plus maintenant qu'on a vu la NGP, on va revenir dessus, mais ah, c'est bon, elle a perdu, elle va se faire démonter, etc. Nous, je crois qu'on est vraiment de l'avis que la promesse de Nintendo, c'est la 3D relief sans lunettes, et cette promesse, honnêtement, elle est tenue.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
que ça fonctionne,
y a pas de déception,
vraiment bien. Oui. Après,
tu t'y habitues par contre.
Voilà. Après, c'est très variable en fonction de chacun. Le ressenti n'est pas uniforme. Il y a même des personnes qu'on a rencontrées à Amsterdam qui ne la voyaient pas, ne l'apercevaient pas. On sait que c'est quoi, Raon ? C'est une dizaine de pourcents de personnes qui ne voient pas
15% tu disais
pas du tout ou pas bien, non, quoi.
Julien,
ouais.
je crois que c'est entre 10 et 15% de gens qui ne voient pas la 3D
Nous ne sommes pas tous égaux devant la 3D
auto-stéréoscopique.
Voilà, exactement. À bien se rappeler aussi que vous avez donc un petit curseur, c'est pas on-off la 3D, ouais. Hein, c'est très, c'est
plus ou moins fort. Plus ou moins.
Moi, par exemple, je le mets assez bas parce que sinon j'ai tendance, parfois ça me fait loucher. Voilà, parce que mine de rien, en fait, c'est ça.
On appelle ça un décrochage.
Mais oui, exactement, Julo.
Moi, je décroche pas mal aussi. Ouais. Et alors, apparemment, le fait d'être miro comme nous, enfin d'avoir des lunettes,
ça doit jouer.
Ça nous met dedans.
Mais ça va vous remuscler un peu les yeux. C'est possible. Ça va vous entraîner, ça va faire.
Oui, parce que le fait de loucher, je crois, justement que ça contribue à muscler les rétines et tout ça, enfin l'œil,
oui.
Dans son ensemble.
Je sais pas pour toi, Raon, mais donc on a pu jouer quand même assez largement. Il y avait aussi Steel Diver, hein, qui ne restera franchement pas dans les mémoires. Un petit jeu de sous-marin, etc.
Dommage,
mais qui
en
vue,
sympa,
quand on est avec le périscope, est plutôt sympa.
Il ouais. Y a mais... d'autres trucs aussi qu'on a vu vite fait qui étaient présentés en vidéo, pour lesquels l'effet 3D ressort vachement. Je pense à Animal Crossing, par exemple, qui le monde est comme un cylindre en fait sur lequel on avance. Et là, du coup. C'est vachement plus saisissant.
Mais et Paper Mario alors.
Bah alors justement,
ouais. Mario, ouais. Ça il est dédié vraiment à ça, quoi.
Ça doit être génial pour la 3D.
Mais dès que les textures sont finalement assez simples, donc moi je pense à Animal Crossing, je pense à Paper Mario et dans une certaine mesure à Nintendogs plus 4. Ces trois jeux pour moi sont ceux dont l'effet 3D vraiment est le plus bluffant. Les chiens de Nintendogs et tout sortent véritablement un peu de l'écran parce que vous avez deux styles de 3D en fait. Vous avez en fonction des jeux, c'est soit de la profondeur, soit du ça sort de comment on pourrait
du relief,
hein, du relief, relief extérieur. l'extérieur, on va dire. Ouais. Et sur ces trois jeux, alors Animal Crossing et Paper Mario n'étaient pas jouables, mais néanmoins il y avait une zone cinéma où on a pu revoir Metal Gear, mais c'était la même démo qu'à l'E3. On a pu voir aussi les titres d'Ubisoft. Ouais. Il y avait aussi Monkey Ball, où là ça marchait pas très bien pour une raison simple, c'est que la 3D était très efficace, mais que comme ils vous demandent avec le gyroscope de bouger tout le temps, machin, bah vous bougez, du coup il faut quand même savoir que pour l'apercevoir bien, il faut des bonnes conditions, c'est-à-dire une console qui est à peu près à bout de bras replié, donc c'est quoi, c'est une vingtaine de centimètres,
ah ouais, un peu plus peut-être, et
dès que tu bouges un peu ça modifie la 3D, quoi. Ouais,
parce que si on la bouge latéralement comme ça, comme un volant en fait, on perd l'effet 3D puisqu'il faut vraiment que l'écran puisse projeter ses images de manière alignée sur chacun des deux
yeux. Donc en gros, utiliser 3D plus gyroscope, ouais.
Mais ça dépend comment tu l'utilises, parce que pour revenir à ce qu'on mentionnait sur Face Raiders ou Zelda Ocarina of Time, tu la tiens droite tout le temps, c'est l'ensemble de ton corps
qui se
déplace.
Avec,
par contre, quand tu dois pencher la console pour obtenir un effet
sans bouger la tête,
Monkey Ball, là ça peut poser un problème.
Mais là je redis mon truc, c'est censé être une console portable que tu emmènes un peu partout. Donc moi je joue beaucoup à la DS dans le train, etc. Est-ce que c'est pas justement préjudiciable d'avoir une 3D qui est pas forcément qu'on voit pas forcément super bien si on bouge d'un tout petit peu, quoi.
Non, il y a de la marge de manœuvre quand même, hein. Tu peux, t'es pas,
c'est, on bouge pas tant que ça quand on joue à la DS,
et plus tu baisses l'effet 3D, d'autant moins, plus tu peux bouger entre guillemets,
d'accord, ça autorise de bouger un petit peu plus.
C'est très bizarre, mais ça, c'est comme si ça, une espèce d'effet loop aussi, et ça donne un effet un peu scintillant sur l'image aussi, comme si elle brillait un petit peu. Et donc plus vous baissez, plus vous intensifiez l'effet, plus tout ça grossit, et plus vous le diminuez, plus cet effet scintillant s'amenuise, plus aussi l'angle de vision peut être un tout petit peu plus large. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. En revanche, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux DS où finalement, par exemple, je pense à un Layton, où on peut jouer à deux, où l'autre derrière l'épaule de la personne qui joue regarde, etc.
Voilà, oui,
là, par contre, faut oublier. Là, c'est-à-dire qu'en 3D, c'est pas possible.
Là, c'est un jeu solo qui est en face, uniquement, quoi.
Donc ça, c'est un petit inconvénient, mais je sais pas ce que t'en penses, Raan, mais moi, personnellement, je trouve vraiment, donc la promesse est tenue. Ouais. En revanche, je trouve ça gadget. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça n'apporte rien au gameplay, alors que le gyroscope, alors que la réalité augmentée,
pas autant en tous
l'intègre.
Les cas. C'est vrai que c'est plus un effet esthétique qu'autre chose. Moi, j'ai trouvé, alors j'ai joué, par exemple, bon, le jeu n'a pas l'air d'être extraordinaire, mais Asphalt 3D de Gameloft qui sortira chez Ubi aussi. Donc, c'est un jeu de bagnole en arcade, tout ce qu'il y a de plus basique.
Ah bah, c'est un jeu iPhone, donc.
Oui. Donc, un jeu de caisse.
Ça doit se faire juste un bête portable.
Pour Asphalt, ça existe même avant.
Oui, non, je sais bien, mais
sur DS,
il a eu ses lettres de noblesse sur iPhone, je pense.
Oui. Mais enfin, c'est pas peu importe. C'est effectivement, même si le jeu est pas extraordinaire, ça donne quand même une impression claire de 3D intéressante, avec la profondeur de la piste qui permet, dans le cas de ce type de jeu-là, par exemple, de mieux évaluer les distances. Ce qui est pas forcément le cas, par exemple, avec la vue dynamique dont on parlait sur Street Fighter, où là, par contre, ça m'a pénalisé pour faire des cross-ups, passer derrière l'adversaire ou ce genre
ça
de choses.
Ça doit être bizarre, ne serait-ce que
tu t'en rends moins compte. Par contre, c'est rigolo. Tu vois tes boules de feu qui filent vers le fond de l'écran, quoi. Donc c'est marrant. Mais l'autre truc, du coup, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que cet écran, aussi 3D soit-il, il est limité par sa résolution. Ce qui fait que les objets qui sont très loin dans la distance au fond de l'écran ont beaucoup moins de pixels pour être dessinés. Du coup, ça fait un effet aussi qui peut être un peu bizarre. C'est-à-dire que tout ce qui est en premier plan, on va dire, est à peu près propre. Et puis, plus tu vas dans la profondeur de l'image, plus
coloré,
tu perds en
etc.,
définition, plus ça scintille et moins c'est précis. Et du coup, il y a une dégradation de qualité visuelle, entre guillemets, au fur et à mesure que tu vas dans la profondeur.
Et justement, a contrario, avec certains titres comme Dead or Alive, quand on passe en mode 2D, au bout de quelques secondes, il y a des effets graphiques supplémentaires qui apparaissent.
Alors ça, c'est purement software, hein. C'est les développeurs qui peuvent faire ça, c'est-à-dire ils ont un contrôle sur le niveau de 3D que l'utilisateur donne, et puis si l'utilisateur baisse la 3D, il récupère une partie de cette puissance pour mettre plus de particules, de plus jolis effets, etc. Puisqu'évidemment, on le sait, comme il faut faire deux images, une pour chaque œil, pour faire cet effet 3D, ça demande à la console de calculer chacune.
Du coup, les effets supplémentaires apparaissent seulement quand t'es en off, vraiment, quoi.
Oui, petit à petit, ouais.
Petit à petit.
Ouais, petit à petit.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est pas au moment où t'arrives sur zéro dans le truc 3D, t'as pas tout d'un coup boum des trucs qui apparaissent en plus, quoi. C'est très discret. Voilà.
Et alors, c'est une question que beaucoup de joueurs se posent. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce line-up, mine de rien, qui est finalement riche en titres vraiment gamers, mais aussi en beaucoup de remakes. La plupart, il y a franchement aucune... nouvelle IP. Il n'y a rien de très frais.
C'est pas hyper excitant, je trouve.
Mais à la fois, c'est très gamer pour autant. C'est-à-dire que.
Oui, mais alors les jeux comme Zelda, Paper Mario et compagnie, ils vont arriver plus tard.
Bah, ils seront dans la fenêtre de lancement, c'est-à-dire que c'est
jusqu'à
juin.
Voilà. Jusqu'en juin.
Pour Paper Mario et tout, c'est pas dit. Hein.
Paper Mario, c'est pas dit, mais Zelda, ça sera Zelda, le cas. Ouais.
Metal Gear devrait sortir à la rentrée prochaine.
Donc, c'est quoi le jeu disponible en Day One qui te fait. Qui va être l'étendard de la console.
Aucun.
C'est ça qui est décevant en fait.
Même le Street Fighter Tiep.
Ah, Street, il est peut-être en Day One.
Si, mais j'avoue que j'ai pas. Alors, il est bien, d'après ce que j'ai vu, c'est quand même très bien foutu. Il y a plein de bonnes idées. Tu peux jouer en réseau. Ils utilisent bien le Street Pass, etc. Mais. Après, c'est personnel, hein. Moi j'ai pas particulièrement envie
de déjà vu, t'aurais attendu.
Et puis il faudra voir à quel prix il est vendu, parce que pour l'instant, véritablement, les informations qu'on a obtenues auprès des revendeurs, c'est quand même une fourchette qui se situe entre 40 et 60 euros le jeu portable.
C'est beaucoup trop cher.
C'est quand même extraordinairement cher pour une console qui, elle aussi, est. Même si Nintendo ne l'a pas officialisé, on sait pourquoi, hein, c'est des règles européennes, etc. Mmh. Bon, enfin bon, a priori, elle sera à 249 euros, c'est une certitude.
C'est sûr. Ouais.
Voilà, ça relance un peu le grand débat qu'on avait eu la semaine dernière, hein, mais c'est vrai que quand vous avez le choix avec les plateformes iPhone, Android ou quoi que ce soit, avec des jeux qui coûtent 1 euro, qui sont peut-être fun, probablement moins profondes hein, que des jeux, même c'est sûr, moins profonds.
Ah là, pour le coup, la différence,
mais c'est 60 fois moins cher.
Ouais.
Mais avant même de faire ce comparo-là, enfin. Stratégiquement, il fallait les faire au même prix que les jeux DS, quitte à baisser le prix des jeux DS ensuite, mais faire une telle augmentation de prix alors que déjà de base les gens vont se dire 249 euros c'est quand même chéro, de voir qu'ils vont payer en plus les jeux 10 à 20 euros plus cher. Pour moi, c'est complètement fou, quoi. C'est une erreur.
C'est pas encore une certitude, ça. On verra.
Oh bah déjà, sur quelques sites internet, les prix sont déjà marchés. Hein.
Elle est à 249 partout et les jeux à 50 euros.
On
voilà,
l'a confirmé vraiment.
C'est trop cher.
On imagine bien les jeux Nintendo à 40 euros et les jeux éditeurs tiers un peu costauds.
Comme disait Guillaume Descamps de Punchers Impact, effectivement, c'est Nintendo qui fixe les prix des cartouches. Et là, sur les royalties, j'ai l'impression que ça se sont bien gavés quand même.
Ça a l'air d'avoir augmenté.
Ouais, voilà. Légèrement, oui, il y a une légère inflation. Voilà.
Et puis pour revenir à ce qu'on disait avant, après, quand même, si en plus de ça, au lancement, t'as pas un jeu Nintendo fort, c'est.
C'est mort.
C'est assez étrange en fait.
Après, on sait aussi qu'il risque d'avoir une jolie pénurie. Hein. C'est que les chiffres annoncés par Iwata de 4 millions de consoles risquent peut-être de chanceler un peu. Non pas que les gens. Parce qu'apparemment, les précommandes sont parties, mais genre.
Comme des
feux de Dieu. Et c'est une certitude d'ailleurs, on le sait, on le sent, que la 3DS va connaître un gros lancement, c'est certain.
Bah, ça sera même le plus gros d'après ce qu'ils disent. Hein,
mais
y aura s'ils n'ont pas les unités suffisantes. Ouais. Ça, mais cela dit, l'effet de pénurie, tu sais bien que ça c'est participe. Voilà, bah, si c'est orchestré ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça participe vraiment à mettre dans la tronche des gens l'envie d'en avoir une et puis après il y a ton pote qui arrive à en avoir une et du coup t'as encore plus envie d'en avoir une enfin on sait bien que ça a un effet sur
mais
sur
vous,
le mental
messieurs,
quoi.
Est-ce que vous avez envie d'en avoir une?
Mais je te dis moi au lancement je sais pas trop, ça va dépendre du jeu auquel je vais pouvoir jouer dessus. Après au niveau curiosité j'aurais évidemment envie d'en avoir une pour
moi pour la collection, oui sans aucun problème évidemment.
Mais moi je serais peut-être capable d'attendre jusqu'à Zelda un gros jeu, n'importe quel autre gros jeu. Voilà.
Mais j'ai quand même la machine me plaît moi.
Moi aussi
j'ai
me
envie
plaît.
De l'avoir mais
elle nous a surpris vraiment par sa légèreté.
Oui.
Alors c'est toujours très difficile de se rendre compte parce que bien sûr vous imaginez bien qu'il y avait des gros trucs en fer pour la tenir même si c'était sur de charmantes
tests. Il y avait des gens au bout des trucs en fer. En
exactement.
Plus.
Mais néanmoins elle est légère, vraiment légère. On avait un peu peur visuellement et pour l'avoir vu à l'E3 que ce soit un peu un petit tank.
Ouais.
Finalement non, elle passe plutôt bien.
Elle est plutôt jolie et tout.
Ouais.
Moi j'aime bien.
Ouais,
j'aime
bien. Elle est un poil plus grosse.
Elle est biseautée
que
en dessous
Lite.
Là, hein, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la Lite ou la DSi sont toutes plates. Celle-ci, elle est un petit peu bombée comme ça.
Avec un stylet rétractible,
télescopique.
Ouais, télescopique, c'est le vrai terme, effectivement. Qui peut donc grandir comme ça.
Et j'adore le modèle bleu turquoise là. Je trouve très joli.
Oh, vas-y, c'est trop bien. Voilà.
Mais pourquoi pas deux sticks analogiques? C'est la grande question qu'on se posait à l'E3.
Parce qu'on n'a qu'une main.
C'est la grande question qu'on se posait au sortir d'Amsterdam. Et c'est la grande réponse qu'a offert quelques jours plus tard Sony avec la conférence dédiée à la PSP2, et bien non, à la NGP, la New Generation Portable.
Quel nom tout pourri.
Next Generation Portable.
C'est un code name,
un code
pour l'instant.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur la nouvelle console de Sony? Eh bien, tout d'abord, que c'est un. Ça confirme,
que c'est
un monstre de puissance. C'est une sorte de petite PS3 portable.
Ça va même au-delà, peut-être, de ce qu'on imaginait, quoi, au niveau puissance. C'est incroyable, quand même.
Niveau surpuissance,
c'est vraiment une PS3.
Ah ouais.
Mais surtout, là où c'est malin, c'est de la part de Sony, et ce qui est rare, hein, depuis quelques générations.
génération de machines, c'est de l'avoir visiblement fortement conçu pour les développeurs, pour leur faciliter l'accès comment on appelle ça,
à des portages plus faciles
au cœur du programme. C'est bas level,
c'est bas niveau,
bas niveau, voilà. Ça veut dire pour pouvoir rapidement en tirer la quintessence, contrairement à la PS3 par exemple, on le sait, faire des portages PS3 NGP finalement quasiment instantané.
Et puis iPhone aussi d'ailleurs,
iPhone,
puisque donc elle a la surface tactile qui est au dos a été confirmée, mais ainsi que plein d'autres choses sur lesquelles on va revenir, mais l'écran lui-même est aussi tactile et c'est un écran OLED.
Et il y a un gyroscope dans la console, donc techniquement on peut faire un portage de jeu iPhone avec les mêmes fonctions, la même jouabilité, etc., très rapidement.
Et justement, et ça, c'est quand on dit écran tactile, écran tactile multi-touch, ce que n'a pas la 3DS, parce qu'effectivement la 3DS est munie d'un écran tactile mais c'est pas multi-touch, donc effectivement pour tous les jeux, les petits jeux social gaming et compagnie qu'on trouve sur Android et iOS, on peut pas les porter directement, on va dire nativement, alors que c'est le cas maintenant avec la NGP. Et ça, c'est quand même un gros point fort. C'est-à-dire que vous avez le catalogue
quand
vraiment gamer
de
la PS3.
Quand t'es développeur, c'est énorme. C'est qu'effectivement, tu vas pas engager des fonds pour développer une version spécifique. C'est vrai que ça, c'est important.
Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de voir que cette conférence, qui était une conférence japonaise, hostée par Kazirai, le président de Sony Computer Entertainment, à Tokyo, pourtant faisait la part belle aussi à des développeurs occidentaux. C'est-à-dire vraiment, c'était une conférence que j'ai trouvé très internationale, de Uncharted à Killzone en passant par Epic.
C'est très important, parce que c'est quand même un peu un des plus gros acteurs, si ce n'est le plus gros acteur du middleware dans le jeu vidéo à l'heure actuelle, avec leur Unreal Engine. Et ils ont montré du coup aussi la facilité, ils ont justement illustré ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire la facilité de porter des jeux qui ont été développés sur iPhone, et c'est pas forcément des jeux au rabais en termes techniques,
Infinity Blade,
etc. sont quand même des jeux qui sont visuellement vraiment à niveau, et ils ont fait la démonstration justement de l'Unreal Engine mobile, qui tourne sur NGP sans aucun problème. Hideo Kojima lui est venu pour dire aussi pareil, qu'il avait pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire tourner en temps réel une des cinématiques de Metal Gear Solid 4 sur la NGP,
20 images secondes, avec quelques petits rabais sur les décors qui étaient un petit peu moins beaux que la version PS3. Par contre, les visages semblaient un peu plus beaux, donc c'est peut-être des compromis.
Et
surtout, il a parlé de cette fameuse possibilité. De cette fameuse possibilité de commencer un jeu sur PS3, de le poursuivre sur NGP, etc. C'est ça.
C'est le cloud. D'accord. C'est le cloud qui va permettre, et apparemment, c'est dans la prochaine d'ailleurs update de la PS3,
qui héberger les sauvegardes, etc.
Qui pour la petite anecdote s'appelle quand même l'update 360, enfin 360. Et qui du coup apporterait cette feature, ce qui permettra de sauvegarder en cloud ces sauvegardes.
D'accord.
Et du coup, permettre de le fantasme apparemment de Kojima,
le fantasme,
certaines personnes ici partagent, de commencer un jeu sur une PS3 ou sur une NGP, de le poursuivre sur une PS3 ou sur une NGP,
sachant qu'ils ont annoncé aussi que tous les jeux NGP seraient compatibles PS3. C'est-à-dire que...
Alors, est-ce que ça signifie qu'on va pouvoir y jouer directement depuis sa PS3, donc sur sa télé ?
Ça, j'aimerais bien.
Alors, je pense que c'est ça, et je pense que c'est en fait très proche de ce qui existe aujourd'hui quand tu achètes un jeu sur le PSN, qui est par exemple un PS1 classique ou quelque chose comme ça. Tu peux le faire tourner sur ta PS3 ou sur ta PSP classique.
Pour le coup, oui.
Voilà, donc à mon avis, ça sera pareil. Sachant que, chose importante qu'on n'a pas signalée sur la NGP, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau média, et c'est encore c'est l'équivalent des cartouches, c'est de la flash même, il n'y a plus de MD. Donc elle aura son propre format pour héberger les jeux. On ne sait pas encore quelle capacité ça a, par contre.
Ce qui induit quand même que tous les possesseurs de PSP avec des jeux sur UMD, par contre, il n'y a plus de rétro-compatibilité, ce qui est
physique.
En revanche, sur les jeux téléchargés sur PlayStation Network, eux seront compatibles.
Oui, et ils sont en ce moment
possibilité de pouvoir les récupérer justement en téléchargement, j'ai cru.
Ils sont en train de démarcher l'essentiel des développeurs PSP qui ont fait des titres PSP qui sont sortis en UMD pour leur demander d'en faire une version téléchargeable à destination évidemment de la NGP.
Il y aura même des versions de jeux PSP sur le nouveau format de carte mémoire propriétaire de la PSP 2. Ça, ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps aussi. Et Sony, tout en excluant l'idée d'un lecteur UMD pour passer tes jeux sur la nouvelle console, a dit une fois de plus, mais il l'avait déjà dit à l'époque de la PSP Go, qu'il réfléchissait à un moyen pour tous ces gens qui avaient beaucoup d'UMD de récupérer leurs jeux.
Mais
je pense que ça va tomber
Donc ils vont
dans l'oubli.
Ils vont créer une version NGP spéciale pour Julo.
Pour moi.
Ça serait vraiment bien qu'ils reprennent un système simple où tu as une référence sur tous les UMD que tu as, qui correspond à un jeu. Moi, j'ai ou un code barre, un système par code barre.
Moi j'ai pensé à un truc plus simple. Tu renvoies ou tu refiles d'une manière ou d'une autre, je sais pas, chez les revendeurs, etc., ton UMD, ce qui te donne accès à un code pour télécharger le jeu en question, par exemple.
Oui, oui.
C'est peut-être assez chiant à faire, mais voilà. Ils pourraient récupérer tous les MD qui sont dans la nature et permettre aux gens de les télécharger.
Ah non, moi je les garde.
Peut-être un collectionneur.
Et alors, qu'est-ce que vous avez. Moi, l'un des points que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir, et c'était illustré par Uncharted, qui est quand même une sacrée claque pour une.
Ah, franchement,
c'est hallucinant.
C'est n'importe quoi.
On en a pas parlé, mais l'écran.
Tactile derrière et tout ça.
Écran 5 pouces OLED, donc ça, c'est inédit sur le marché de la console nomade.
Ce qui est très bien vu parce que, un, ça donne une qualité d'image d'enfer avec un contraste très très bon, bien meilleur que celui des écrans traditionnels LCD, et ça consomme très peu d'énergie, donc ça permet de récupérer l'autonomie que bouffe normalement un écran pour la refoutre justement dans la puissance.
Et les écrans OLED ont un angle aussi assez incroyable tu peux te mettre quasiment sur le côté et voir aussi bien l'image, quoi. C'est impressionnant.
Mais donc ce qui était intéressant avec Uncharted, c'était de voir que c'est un jeu traditionnel, on va dire. On pouvait le jouer donc avec les double sticks, régler l'écran, les caméras, etc. Mais aussi on pouvait, et ça c'est à la discrétion du joueur, utiliser l'écran tactile
pour sauter, par exemple,
ou se balancer en utilisant la zone arrière. Et ça c'est intéressant.
Et même
parce
le gyroscope aussi.
Et le gyroscope. Ouais. Ça c'est intéressant parce que du coup on peut se dire que parfois avec les écrans tactiles, on a peur que ça casualise les jeux et que des grands jeux traditionnels soient finalement devenir simples. Apparemment, l'optique là, c'est de faire un jeu où c'est à vous de choisir. Soit vous y jouez traditionnellement comme sur votre console de salon, soit pour les joueurs un peu plus light, d'un petit geste. Et ça, c'est intéressant.
Si ça va amener les gens qui ont l'habitude de jouer en tactile sur iPhone à des choses simples vers la méthode de contrôle qu'on connaît nous. Mais en tous les cas, c'est bien de laisser le choix. Enfin, moi, je trouve ça.
Et de mélanger surtout tout ça, quoi. Parce que quand on a vu la démo avec. Yoshida, voilà.
Président de Sony, des studios
de Sony Worldwide. Monde. Effectivement, il jouait traditionnellement donc au stick, mais en même temps, pour attraper un homme par exemple, ou pour se balancer sur une liane, hop, une petite pichenette sur l'écran. Derrière, pour grimper sur un mur, hop, il grattait le tactile à l'arrière de la console.
Je me demande encore comment est-ce que ça va être. J'ai vraiment hâte de l'avoir en main pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment agir sur ce panneau arrière tactile, parce qu'on se dit.
Est-ce que ça va pas bien tenir, etc.
La rédac. Hein. Bon, certes en papier, tu peux essayer.
C'est difficile de rejoindre le bout de ta main gauche et de ta main droite. C'est quasiment impossible. Il faut avoir des très grandes mains. Mais par contre, la zone est très large, donc tu peux l'utiliser. Non, mais t'as pas besoin, mais tu peux pas, exploiter toute la surface de l'écran
arrière.
Arrière, du panneau tactile. Ouais.
Tu peux pas rejoindre tes doigts, quoi. C'est-à-dire que la zone centrale, tu pourras pas y toucher ou presque. Mais c'est pas très grave. Et moi, justement, je pensais qu'ils allaient un peu plus parler de cette nouvelle feature. Finalement, on a vu quoi ? On a vu une petite vidéo, je sais pas si vous avez vu, d'un jeu qui a l'air rigolo.
Battle Deviants.
Alors là, Traz, je pense qu'il peut t'en parler.
Ça a l'air génial.
Ça
a l'air trop bien. C'est le truc où tu déformes le. C'est ça ? Tu déformes
le. Ouais, effectivement. J'ai l'impression que sur iPhone, il y a eu plein de jeux comme ça. C'est un peu le même système qu'Angry Birds, quoi. C'est-à-dire que tu. Enfin, c'est du Angry Birds-like, entre guillemets, mais là, c'est dans un univers en 3D, j'ai l'impression. Enfin, si je me souviens bien.
Oui.
Effectivement, tu appuies ton doigt sur une espèce de petite boule assez bizarre, tu peux le déformer pour le balancer sur d'autres personnages qui à l'écran, etc. Tu peux déformer le terrain aussi
par en dessous,
c'est
génial.
Voilà, avec
parce que c'est vraiment
le doigt à l'arrière.
La sensation d'être rigolote parce que c'est effectivement tes doigts derrière l'image,
t'as l'impression de étirer le personnage et déformer le terrain, etc. Enfin, j'ai l'impression que là ils ont
c'est comme si c'était une étoffe sur laquelle tu pouvais effectivement agir géométriquement, quoi. Enfin,
c'est presque la réalité virtuelle mais dans l'écran.
C'était assez énigmatique pour nous, cet écran, mais du coup on se rend compte un petit peu de ce que ça pourra donner, puis des petites idées sympas qui vont naître de ça, quoi.
Ouais. J'ai vraiment l'impression que la NGP là, ils ont enfin compris tout ce que les joueurs voulaient.
C'est ce qu'on
ils ont tout mis dedans, effectivement.
Il y a le GPS, il y a le gyroscope.
Il manque l'écran 3D.
Si ça marche pas, il faut qu'ils arrêtent, hein, parce que
après faut voir le prix.
Oui, c'est sûr.
Grosse interrogation.
Il y a ça, il y a le micro, il y a une caméra en façade, une caméra
derrière.
Il y a la
3G.
Techniquement, c'est très important.
Et moi, je suis très content qu'elle ait un peu grossi, en fait, parce que la PSP, moi j'adore le format de la PSP 3000.
Plus fine quand même.
Ouais, elle est.
J'ai vraiment l'impression qu'elle est plus fine.
Regardons cette petite PSP.
Ça c'est la.
Elle va être plus haute.
Parce que moi j'ai beaucoup plus gros que ça, la première.
Un peu plus large.
Ouais.
Mais ah, surtout l'écran va être
l'écran va être nu en main aussi hein. Mmh. Attention donc
ouais surtout qu'il y a des petites encoches pour les doigts derrière.
Exactement. Alors,
ouais.
Mmh.
Ce que nous a permis bon pourquoi on a fait une PSP une NGP en papier. C'était pas que pour la blague, c'était avant tout parce que à la rédac on se posait la question, on était tous là ouais mais attends est-ce qu'elle va être bien dans la main etc. On s'est fait bon va écouter, on va couper court à toutes ces conversations, on va se l'imprimer vraiment au format exact, donc les images que vous voyez sur Gamebog dans le post de blog, la NGP est arrivée à la rédaction, c'est véritablement c'est les dimensions. 1, 1. Ouais. Et du coup, on s'est rendu compte que les touches, par exemple, triangle, carré, machin, sont beaucoup plus petites.
Tout comme la croix hein, aussi, pareil, avec chaque
coupe. En fait, les touches, effectivement, ressemblent à celles qu'on a sur le PS Move.
Oui, un petit peu. C'est un tout petit peu plus grosses quand même.
Un peu plus grosses, un peu plus ressorties. Ouais. Mais plus petites, effectivement.
Elles sont très proches les unes des autres, surtout. C'est
très
ça
proche, ouais. C'est très resserré sur la croix de direction, c'est notable. Ils se touchent quasiment. Et du coup, pour un pouce occidental, ça va être un petit peu étroit. Mais bon, après...
Non, j'ai des petits doigts, ça va. C'est parfait.
Faut l'avoir en main, véritablement. On parlait tout à l'heure sur la 3DS de cette petite fenêtre ouverte sur le monde, par exemple, avec le Zelda. C'est amusant de voir que pendant la conférence, ils ont montré exactement la même chose avec le golf, avec Everybody's Golf.
Tout à fait.
Pour ce placé dans le décor. Un truc amusant aussi, c'est que par exemple, on touchait le personnage, il se retournait et il parlait. J'ai l'impression vraiment que là, il donne tout. Là.
Ah ouais.
Il y a effectivement, comme le disait Julot, il n'y a pas la 3D relief qui peut quand même, mine de rien, être un argument extraordinairement fort pour Nintendo parce que le buzz grand public, il est là.
Ils vont tout miser dessus.
On trouve ça gadget.
C'est la console qui fait la 3D, c'est la 3DS. Voilà. Et Sony aura beau mettre tous les arguments dans cette console technique, tout ce que vous voulez. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien parce que pour équilibrer un peu les choses, mais c'est pas sûr du tout, quoi.
Bah, en tous les cas, ils ont un soutien éditeur
massif.
Bah, je crois qu'ils sont tous aussi forts des deux côtés. Hein,
oui, sur la 3DS est évidemment très soutenue.
Peut-être plus du côté de la NGP maintenant par rapport à la PSP, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le fameux PlayStation Suite, hein, c'est ça, si je me trompe
pas,
qui permet de. De développer un jeu sur plusieurs plateformes et donc de rentabiliser un maximum.
Ah oui, oui.
Peut-être que Android,
ils ont effectivement ouvert cette conférence.
Ça,
ça c'est important.
C'était la première annonce de la conférence, c'était effectivement le PlayStation Suite qui permet de développer un même jeu sur toutes les plateformes mobiles, y compris les téléphones Sony Ericsson, a priori, notamment le fameux Xperia Play.
Voilà.
Donc encore une fois, c'est une optique
transversale.
Voilà, qui est très intéressante.
Ça, c'est
pour
ultra important pour les développeurs, clairement.
Voilà. Ça peut changer la donne parce que c'est pas le cas sur une 3DS.
Non.
Ça c'est certain que si tu développes un jeu 3DS, c'est un jeu 3DS quoi et basta. Alors qu'on sait tous qu'il y a besoin de pouvoir rentabiliser des licences un peu partout.
Donc ça veut dire que les développeurs vont être plus enclins à vouloir faire des jeux sur la NGP de toute façon.
Maintenant vont-ils l'exploiter à hauteur de ce qu'elle est capable de faire? Ça c'est
peut-être
aussi
pas,
une autre
peut-être
question.
Pas tous, parce
qu'on va pas se retrouver avec un milliard de portages comme Asphalt 3D et compagnie. Parce que c'est
basique.
On dit de la 3DS qu'il y aura beaucoup de remakes, mais c'est le cas aussi pour la NGP pour l'instant. Même si a priori donc c'est Uncharted, c'est un nouvel épisode. Il y aura un autre Killzone aussi, etc. Donc pour les grosses licences.
Monster Hunter qui a été annoncé pour le Japon, ça c'est très fort. D'autant que il y a l'option dont on n'a pas parlé, Nier, grâce au GPS qui t'intéresse beaucoup et qui est vraiment.
Moi je.
On en parle deux secondes.
Bah oui. En fait, ça ressemblerait finalement à une réponse de Sony au Street Pass de Nintendo. C'est pas tout à fait le même concept, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que comme la console a un GPS et qu'elle a de fortes capacités de communication avec la 3G et le Wi-Fi et le Bluetooth, on peut savoir grâce à Nier s'il y a d'autres gens qui jouent à côté de nous, à quel jeu ils jouent. On peut acheter ces jeux directement sur la carte si on se rend compte que je sais pas, tous les jours vous passez par exemple devant un parc et vous vous rendez compte qu'il y a un groupe de 4-5 personnes qui va jouer à Monster Hunter tous les jours à cet endroit là vous avez pas Monster Hunter, vous cliquez dessus, vous pouvez le télécharger
et jouer directement
avec eux.
Après
etc.
ça restera à voir entre Wi-Fi et 3G comment ça fonctionne exactement. Est-ce qu'il faudra un abonnement spécifique pour la 3G? Il y a encore énormément d'interrogations,
ça bouge pas trop la batterie, etc.
Je suis prêt à parier qu'il y aura pas d'abonnement spécifique pour la 3G, que ça sera un abonnement compris avec plein d'autres services comme on le disait dans le podcast la semaine dernière avec le PlayStation Plus, etc. Et puis de toute façon ils ont annoncé aussi qu'il y aurait, en tous les cas pour l'Europe, puisque ça sera pas le cas au Japon elles auront toute la 3G, mais chez nous en Europe Andrew House a confirmé qu'il y aurait au moins deux modèles, l'un avec 3G, l'autre sans 3G. Donc bon, mais au moins c'est bien parce qu'ils ont cette possibilité, quoi.
Reste donc, vous l'aurez compris, hein, elle nous excite assez fortement par ses possibilités par rapport aux développeurs et donc pour nous, les joueurs, d'en tirer ses fruits. Son côté très ouvert et bourré de possibilités. Mm-hmm. Utiliser le tactile, devant, derrière, la 3G, le GPS, une puissance brute incroyable. Enfin, voilà. Néanmoins, attention, on va tempérer un tout petit peu les choses. Il reste énormément d'interrogations.
Le prix, notamment.
Le prix, qui risque quand même d'être
299 euros.
Ouais,
peut-être, il faudra pas compter moins, en tout cas, pour le modèle
parce que
de base.
S'ils font plus, ils sont, à mon avis, c'est fini. Hein.
Pour le modèle 3G, à mon avis, ouais, ça risque d'être plus élevé. Hein. Regarde, plutôt à 450, hein, à 449.
Ouais. Ouais. Enfin, les prix de l'iPad, quand c'est sorti, c'était très cher. Hein.
C'est
en 3G en plus. Hein.
Ah oui, 3G en plus, non, c'était plus, c'était 700, je crois.
Bah oui. Donc bon, après, c'est, on va pas non plus comparer des torchons et des serviettes, mais bon.
Donc le prix va forcément et doit être pris en compte. On ne connaît pas non plus le prix des jeux. Si c'est une mini PS3, est-ce que les jeux seront le prix de jeux PS3? Et là, c'est très cher aussi. Et...
Bah, ça va être clair. S'ils doivent vendre la console à perte, parce que, et ça c'est fort possible pour atteindre un prix plus proche de celui de la 3DS.
Ça, a priori, ils l'ont quasiment confirmé. Hein.
Bah ouais. En tous les cas, ils ont dit qu'elle devrait être abordable après. Ouais. Bon, voilà.
Et si Uncharted 3 était vendu avec le jeu.
Alors c'est ça, moi si je pensais à ça, exactement comme les Blu-ray, exactement comme les Blu-ray Ultimate Edition, où t'as le Blu-ray, le DVD et la copie digitale en une seule boîte. Bah pourquoi pas.
Moi j'y crois, ça.
Moi aussi, beaucoup.
Franchement.
En tout cas, ça serait une façon de vendre le
en version
le truc,
collector, quoi.
Voilà. Ouais. Assez intéressant.
Et si les jeux ont des ponts l'un avec l'autre, ça, en tout cas, ça fait complètement
ça
sens.
Ouais.
Donc, le prix de la console, le prix des jeux, la date de sortie qu'ils ont annoncé pour l'instant pour le Japon, pour un fin 2011. D'après nos échos, en plus, il y a encore quelques temps, ils étaient pas dans la certitude absolue de pouvoir tenir les délais. Apparemment, ça a l'air de plutôt bien se goupiller pour que ce soit fin 2011, mais est-ce que ce sera le cas quand même pour l'Europe, pour
l'Occident,
on va dire.
Franchement, connaissant Sony, ça reste difficile d'avoir ça fin 2011 pour nous. Hein. Mais bon.
Peut-être un mars 2012
Je vois plus en 2012 pour l'Europe.
Hein. Dans tous les cas, a priori, on devrait le savoir à l'E3 cette année.
Et
en juin prochain.
Ouais, c'est sûr, on connaîtrait normalement aussi le véritable nom. Alors, les paris sont ouverts. Moi, je mise sur un PlayStation quelque
3,
chose.
PlayStation 3 portable.
Ouais, peut-être. Mais pas PSP2, en tout cas. Mm. Et puis, restera la dernière interrogation, celle qui fait couler tant d'encre, l'autonomie.
Ouais,
parce que c'est un monstre de puissance, mais la puissance n'est rien lorsque...
Elle n'est pas maîtrisée.
Elle n'est pas maîtrisée, ouais.
Mais alors, il n'y a plus de lecteur mécanique, l'écran consomme très peu. Je pense qu'on peut raisonnablement espérer...
4-5 heures.
Ouais, un truc à peu près similaire à une PSP à fond, quoi. Je pense.
Je crains en tout cas qu'on ne connaîtra plus de consoles portables qui ont une autonomie de 10 heures. Je crois que c'est fini. Entre
la
les
Game
iPhone,
Boy,
la 3DS et la NGP, je crois que 4-5 heures sera effectivement devenue la norme et que tout le monde se cachera en disant mais c'est comme les autres.
C'est comme ça.
C'est un peu dommage quand même pour des devices portables. Mais bon, il y avait un article passionnant exactement, qui vous explique pourquoi aujourd'hui, malgré toutes les prouesses technologiques,
on est arrivé au bout du bout technologiquement pour les batteries.
Exactement. Ouais. Il va falloir trouver d'autres manières de procéder parce qu'aujourd'hui, il y a pas de solution.
En fait, celui qui est devenu très riche, c'est celui qui va faire des batteries qui durent 100 heures, quoi.
Bah oui, grave.
Il va être milliardaire.
Oui, mais enfin, c'est pas gagné. Ça va être plus simple a priori de faire des composants qui consomment moins d'électricité que d'avoir plus d'électricité.
Ah ouais, mais vu comment c'est à chaque fois la technologie, c'est pas prêt d'arriver, quoi. Vu qu'il repousse à chaque fois les limites, etc., etc., plus de puissance, plus de bidule, plus de trucs que fait la machine.
À suivre.
Que fait la police.
En même temps, peut-être qu'il suit aussi la voie de l'iPhone. Hein. L'iPhone, ça dure combien de temps?
Quand tu joues, franchement,
c'est pas longtemps.
Bah voilà. Ouais. Ils se disent, les gens, ils jouent comme sur l'iPhone, ils vont jouer 20 minutes et puis voilà, ça suffira.
Mais c'est
ton trajet de métro, de machin. C'est un peu con si c'est ça, ouais, effectivement.
À suivre. Allez, on continue avec le troisième temps fort du mois. On va appeler d'ailleurs pour l'occasion Tiger Suplex qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'était donc la Square Enix First Production Department première. Quel nom incroyable pour cette conférence qu'il y a quelques mois, on connaissait sous le nom de Fabula Nova Crystallis Conference. Et donc quand même énormément de belles annonces, hein, en tout cas de belles confirmations et de nouveaux trailers qui en ont mis plein la vue. Ça va Tiger ? Et Tiger, dans quelques instants, tu vas nous parler de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Mais avant ça, on va parler vraiment des Final Fantasy, parce qu'il y en a eu moult. Ça a été l'officialisation de Final Fantasy 13-2 qui devrait sortir même chez nous d'ici la fin 2011, donc un développement beaucoup plus ramassé. Je sais pas pour vous, mais rappelez-vous Final Fantasy 10-2
la Star Academy du RPG.
J'ai beaucoup joué. Ouais. J'ai fait la Solus à l'époque, donc j'ai fait à fond, tout simplement.
D'accord.
Mon pauvre.
C'était assez décevant. Donc, c'était des nanas qui criaient Yata et qui changeaient de coups spéciaux en changeant de fringues. Voilà.
Et bien heureusement, pour ce Final Fantasy XIII-2,
ça s'annonce plus sérieux. Hein, quand
voilà,
même.
C'est pas du tout la même optique.
360 et PS3.
360 et PS3, un univers qui donc prend la suite directe de Final Fantasy XIII, mais de manière plus sombre. On retrouve donc Lightning, mais cette fois-ci en armure, assez classe d'ailleurs, avec une espèce de, je sais pas, de jupe en plume d'ange. Enfin, c'est assez classieux. Et un nouveau personnage pour l'instant très énigmatique, masculin, assez sombre.
Mais on sait qu'il va être très important parce qu'il est carrément sur le logo avec Lightning. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on sait peu de choses. Il est en armure également.
Une grosse épée.
Ouais, voilà. Il y a une espèce de dualité entre lui et Lightning, apparemment, parce que dans le petit teaser qu'on voit, ils s'affrontent.
Ils se battent, ouais.
Ouais, enfin, ils sont dos à dos. Ils sont dos à dos aussi. Donc voilà, c'est assez énigmatique. Mais en tout cas, je suis content de voir qu'il n'y ait pas une histoire de fringues et de nana qui crie Yata. Voilà.
On est d'accord. Et apparemment, les producteurs auraient pris en compte les réflexions et les critiques émises au Final Fantasy XIII, qui avait certains bons aspects comme le système de combat, et puis d'autres un petit peu plus, genre la linéarité, les couloirs et le côté gnangnan. Espérons que ce 13-2 soit plus qu'une espèce de petit
plus ouvert,
annexe, plus annexe, pourquoi pas une carte. En tout cas, ce sera le cas de Final Fantasy versus 13, qui lui, ça y est, c'est enfin montré beaucoup plus longuement, avec un trailer que moi j'ai trouvé riche de moult promesses. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs?
Moi aussi je l'ai trouvé très dynamique. Vraiment visuellement, ça a l'air nettement plus intéressant que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, même s'ils ont remontré les mêmes scènes avec
Noctis
et la nana dont je connais pas le nom qui discute pendant trois plombes, sauf que t'entends pas ce qu'ils disent. En tous les cas, les scènes de combat ont l'air quand même vachement plus dynamiques.
C'est beaucoup plus action qu'un RPG traditionnel.
C'est Kingdom Hearts like, Tiger, et c'est Nomura qui est derrière, donc c'est pas
le même bonhomme, donc c'est pas étonnant.
Et puis ça a l'air plus ouvert aussi.
Ah ben, il y a l'air d'avoir une carte, c'est-à-dire qu'on se déplace de lieu en lieu, comme ça on n'est pas borné à des couloirs. On a pu découvrir aussi des nouveaux personnages. On notera Gladiolus, Prompto, Ignis.
On ne sait pas exactement qui ils sont, mais c'est les noms qui sont dans le...
En tout cas, ils sont bien sapés.
On a vu aussi des phases d'action pure et dure avec des épées, etc. Mais aussi d'autres, vu plus TPS avec des flingues.
Oui, carrément, avec un réticule à l'écran et tout. À voir comment ça se contrôle et tout. Mais enfin, visiblement, ça a l'air effectivement du TPS, quoi. Donc, bon.
Et puis la variété de ce qu'on a pu découvrir dans le trailer, ça veut dire des séquences en mecha, des séquences sur des tanks, des séquences dans la pampa, des séquences urbaines. voilà. Et puis un dynamisme assez incroyable, c'est-à-dire que le héros qui se déplaçait, ça explosait dans tous les sens, tout d'un coup une créature à la Godzilla style qui apparaît sur un building, qui tombe, boum, le combat qui s'engage.
Est-ce que c'est pas trop presque tout ça?
et de très belle cinématique aussi. Je trouve depuis, j'ai pas ressenti ce gap au niveau des cinématiques depuis FF8 quand on avait vu la première cinématique. C'est bluffant. Et là, les expressions sur le chauffeur de la limousine. J'ai trouvé qu'il y avait un nouveau gap encore qui a été franchi par Square sur les cinématiques.
C'est marrant d'ailleurs, cette espèce de mélange d'ambiance avec un truc très très contemporain avec péage.
Mais alors finalement, c'est le même univers que 13 ou pas?
Ça reste dans l'univers de Fabula Nova Crystallis, ça veut dire c'est la même mythologie.
Oui, mais là c'est versus 13, tu vois.
Non, mais c'est pas le même univers, t'as les LC, etc.
D'accord.
Donc il y a des points communs, quoi, on va dire, c'est surtout. Voilà.
Voilà, donc
c'est un peu compliqué, FFF quand même.
C'est ça.
Non, pas du tout. Franchement, les Versus 13, les bidules, les machins. Mais...
Et attends, Agito 13, on parlera juste après, mais il est plus dans le même univers, justement.
Dans tous les sens.
C'était too much.
Pas de date, toujours, parce que c'est quand même ce que les gens attendent. Et puis l'autre confirmation, c'est que pour l'instant, visiblement, ça reste une exclusivité PS3, puisqu'aucune mention de la Xbox, alors que celle de la PS3 était bien marquée. Justement, Julo, tu vas nous parler un petit peu de celui qu'on nommait il y a encore quelques semaines Agito 13. Et maintenant c'est fini.
Ouais, c'est assez intéressant parce que donc juste avant la conférence, pardon, il y avait eu quelques rumeurs autour d'un Final Fantasy Type 0. Il y avait même des dépôts de marque pour Type 1, Type 2, Type 3, ce qui laissait sous-entendre qu'une nouvelle série de Final Fantasy était en cours. Et donc tout ça est cristallisé finalement dans Agito 13 qui est renommé donc Type 0. Et pourquoi ? Justement parce que l'univers, finalement, ils s'en sont beaucoup éloignés. Ça n'a plus rien à voir avec l'univers de 13.
Fabula Nova.
Voilà. Donc, du coup, ils se sont dit, étant donné que c'est intéressant quand même, hein, faut rappeler pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Gameblog que le jeu tiendra quand même sur deux UMD. C'est une première.
C'est une première. Mmh.
Voilà. Donc, ça va être un RPG a priori assez conséquent, un grand univers, etc. Enfin, et c'est quelque chose dans lequel tu as l'impression que Square Enix va placer beaucoup d'espoir. Voilà, une nouvelle branche dans les Final Fantasy, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal de temps, en tout cas pas de manière aussi sérieuse.
Et comme initialement il était prévu sur téléphone mobile, ouais. Il était très axé multijoueur, c'est vrai qu'apparemment il est vrai, on y joue solo et on se retrouve à plusieurs pour arriver dans des grands combats.
Alors c'est encore assez obscur en fait, parce qu'ils ont expliqué qu'il y a, donc il y a 14 personnages dans le jeu, ça a l'air d'être orienté assez tactique en fait. On emmène ces personnages de mission en mission sur une carte. Donc on suit le scénario. Ces personnages sont issus d'une école de magie, blablabla. Il y a un conflit entre deux nations, enfin c'est du Final Fantasy assez classique à la base, et quand on est en position de faiblesse sur un combat, il semblerait que d'autres joueurs puissent venir à notre rescousse via cet aspect multijoueur, voilà. Mais on sait pas trop exactement comment ça va se mettre en place vraiment, quoi.
Alors ce qu'on sait en revanche, c'est que Square Enix compte s'en mettre plein les fouilles avec Dissidia Duodécime Prologus.
Prologus, encore un nom à la Square Enix. Non, alors ça c'est assez énorme, mais je dois dire c'est brillant quand même. Donc en gros,
c'est brillant au niveau marketing, c'est ça tu veux dire ?
Exactement, parce que
au niveau escroquerie.
Voilà, donc vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes autour de Dissidia Duodécime, donc le Dissidia 2 dans lequel il y a tous les personnages de Final Fantasy qui s'affrontent dans un jeu de combat. Et ils vont donc sortir ce Prologus.
J'ai pas entendu.
Trio des cimes. Pour la suite.
Ils vont donc du coup sortir ce Prologus qui est en fait une démo, mais beaucoup plus, comment dire, chargée qu'une démo, hein, c'est-à-dire beaucoup plus étoffée, mais qui va être payante. Hein. 300 yens, c'est pas grand-chose, certes.
Il y a un personnage.
Mais voilà, ouais. Et le truc, c'est que pour inciter les gens à donc débourser ces 300 yens pour une démo, le fait de l'acheter va pouvoir débloquer des choses dans la version finale du jeu. Et débloquer quoi? Débloquer Aeris, Final Fantasy VII, qui est l'un des personnages, on va dire, auxquels les joueurs sont le plus attachés, hein. C'est un personnage culte, hein, vous vous souvenez,
c'est la résurrection en plus,
voilà, hein. Donc du coup c'est brillant parce que tous les fans de Final Fantasy,
t'as envie de les baffer aussi à la fois,
hein. ils vont tous foncer dessus. D'ailleurs en fait la démo a été mise en ligne sur le PSN immédiatement après l'annonce. Je pense qu'ils ont fait tout de suite des milliers, des dizaines de milliers même de téléchargements dans les 10 secondes qu'on suivit. Donc voilà, je trouve ça assez brillant, et en même temps ça fait peur parce que là vraiment
c'est ça, parce que c'est la course au DLC, etc., au tout payant du jeu vidéo.
Mais tant qu'il y a des gens pour acheter, hein, voilà.
C'est certain. Disons que c'est habilement joué avec la corde sentimentale et émotionnelle des joueurs. Ouais. Par contre, pour au niveau financier, bon, c'est un petit peu vache, quoi. Mais bon, c'est le commerce. Et puis voilà, on arrive au dernier titre. Alors là, non Final Fantasy, mais qui faisait partie véritablement de cette conférence et qui attire beaucoup, parce que désormais c'est vraiment une grosse licence. Puis il y a le sort dans tous les sens, hein, il y en a partout. C'est Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, c'est l'autre titre de Nomura Tiger.
Qu'est-ce qu'ils ont roulé avec leur titre
Donc bah là c'est pour faire le jeu avec 3D en fait, c'est Dream Distance, t'as 3D, donc voilà, c'est soi-disant donc enfin le Kingdom Hearts qui devrait faire le lien en fait entre l'épisode 2 et l'épisode 3,
le missing link,
sauf qu'on a appris récemment en fait qu'il semblerait que cette aventure se passe dans un rêve. Avec des éléments comme d'habitude très tortueux, donc pour ceux qui connaissent pas la série Kingdom Hearts, c'est déjà mais super tiré par les cheveux comme intrigue. Moi-même j'y comprends rien alors que j'ai fait tous les épisodes.
C'est juste que t'es
un ourson qui est en fait un fasciste de merde et qui essaie d'attaquer la princesse bidule.
Ouais, enfin c'est très très complexe. Donc là-dessus sur l'intrigue, moi je suis un peu dubitatif. Je pense encore qu'on va nous vendre du vent et que faudra attendre l'épisode 3 pour avoir enfin des réponses et quelque chose d'intéressant.
C'est fou parce que je sais pas combien il y a de Kingdom Hearts, et c'est vrai que j'ai appris ça il y a pas longtemps, le scénario n'avance absolument pas dans tous les épisodes.
C'est parce que c'est des fans de Lost, les mecs.
C'est un peu avancé avec Birth by Sleep, mais sinon ça piétine. Le seul truc qui pour l'instant semble assez attirant en fait, c'est que le gameplay a l'air en fait plus dynamique que jamais. Dans l'épisode 2, il y avait les modes fusion, c'est quand en fait son personnage arborait un nouveau costume et avait des nouveaux pouvoirs, ce qui rendait les combats hyper dynamiques et tout. Et visiblement ça serait les mouvements de base des personnages, donc on voit dans le premier trailer, les types qui font des sauts incroyables, enfin les types c'est Riku et Sora, les deux protagonistes, qui font des sauts sur les murs, qui tournent autour des lampadaires et tout machin, donc un gameplay très dynamique.
Écoute,
s'ils
tournent autour des lampadaires alors
mais après voilà quoi, s'il y a quelques éléments, c'est sûr que les fans iront voir quand même, s'il y a quelques éléments d'histoire, bon pour l'instant je suis assez dubitatif là-dessus, on verra bien. Bon.
On va découvrir ça. Allez, on va passer au test et puis dans quelques instants le récap des news. Un long podcast, hein, mais vous le savez que cette actualité de janvier a été très riche. On va aller très vite sur les tests. Vous les pouvez tous les trouver bien sûr sur Gameblog.
Avec un encart supplémentaire.
Révolutionnaire.
Mais
Tiger, on va rester avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mass Effect 2 qui arrive sur PS3?
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il apporte?
J'aime tellement ce jeu, en fait, je suis totalement fan de l'univers qui est super profond. On en parlait avec Pierre Raon, on peut rester dans les menus pour écouter
dans le codex,
le codex où on nous parle des races, etc. Cette version PS2, elle est
3.
PS3 pardon,
ça
y a trop de partout, Dead Space 2, Mass Effect 2, tout ça. Donc cette version PS3, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle compile en fait les DLC qui étaient sortis de manière individuelle sur la version Xbox. Mm-hmm. Donc ce qui rajoute à peu près 6 heures de jeu à l'aventure. Déjà, je pense que en ligne droite, c'est une grosse vingtaine d'heures, et si on s'attarde, c'est au moins 40 heures. Déjà Mass Effect 2, donc 6 heures en plus. On a en plus des codes à activer avec, vous savez, les comptillets pour récupérer une armure, des armes, un personnage supplémentaire.
Ça c'est
donc,
payant ça
Non, c'est fourni avec le jeu en fait, donc tout ça est gratos. Il y a quelques DLC aussi gratuits sur le PlayStation Network, il y en a aussi des payants, ça tourne autour de 2€. Et pour ceux qui n'auraient pas fait le premier épisode, il y a une BD interactive en fait. Bon, le seul truc un peu embêtant, c'est que la BD interactive, elle est pas présente sur le Blu-ray au départ, donc faut la télécharger.
Dans le
alors
jeu.
Que si on n'a pas joué aux deux, on aimerait tout de suite voilà, pouvoir...
Bah, ouais.
Et en fait, on peut faire des choix durant cette BD interactive qui influence directement l'aventure de Mass Effect 2.
Mais donc, parce qu'effectivement le premier ne sortira jamais sur PS3, il fallait trouver un palliatif quoi.
Alors tout bon pour ce portage, sauf que récemment on a appris qu'il y avait quelques problèmes en fait par rapport à des sauvegardes. Il y a des joueurs PS3 en fait qui auraient perdu leur sauvegarde parce que ça aurait frisé. Il y a un patch qui est arrivé ou qui va arriver en tout cas, qui devrait solutionner tout ça. Voilà, techniquement après c'est franchement kiff hein, on parle.
Parce que justement apparemment c'est le moteur de Mass Effect 3 qui va sortir dans quelques temps, ça apporte quelque chose?
Bah écoute c'est très sincèrement rien quoi, enfin, c'est vraiment graphiquement le même jeu.
Et pareil, ça rame un peu.
Oui mais enfin, il y a pas de différence. On peut pas dire que la version PS3 rame plus que la version Xbox 360.
C'est pas si commun justement. En général, les jeux PS3 sont moins jolis. Donc, s'il est aussi joli, c'est peut-être grâce à ça.
Mais en fait,
il y a aussi autre chose, c'est que il y a pas dans Mass Effect, il y a souvent un problème sur 3.6. C'était très flagrant dans le premier, un peu moins dans le second, de téléchargement des différentes couches de textures qui apparaissaient au fur et à mesure.
Alors, ça c'était pénible. Ça c'est résolu.
Voilà. Rien que ça déjà, moi je suis déjà super content.
Il y a toujours 2-3 bugs par-ci par-là. J'en parlais à Julo. J'ai eu Miranda, l'héroïne, qui s'est retrouvée avec ses jambes qui sortait du sol, qui tourbillonnait autour de moi.
Tu parles avec quelqu'un, d'un coup il est à l'envers, il y a juste ses deux pattes.
Après, je pense qu'ils parlaient aussi du moteur de Mass Effect 3, parce que j'imagine qu'ils ont développé un moteur spécial aussi pour cette version PlayStation 3, dans lequel il doit y avoir des éléments du moteur du 3. Mais bon, c'est plus un argument marketing qu'autre chose, parce que vraiment on peut comparer les deux versions, c'est la même chose.
Quasiment kiff.
Ouais,
ok. On passe à un autre titre que tu as pu tester aussi en janvier, Tiger. Un titre intéressant à plus d'un titre, puisque vraiment il joue sur vous. C'est à vous de lui donner véritablement vie, en tout cas dans sa partie communautaire, c'est Little Big Planet 2.
Et oui, comme le dit la pub, c'est la communauté qui crée vos jeux, quoi, qui crée vos propres niveaux. Un autre très bon jeu là, en début d'année pour la PlayStation 2, Little
3.
Big 3. Tu vas y arriver.
Le PlayStation 2, les amis, la PlayStation 3. Où j'en étais? Oui, donc un très bon jeu pour la PlayStation 3. Voilà, Little Big Planet. Donc on connaît l'univers très mignon, machin, avec le petit personnage Sackboy.
Le solo a changé, c'est un peu étoffé.
Ouais, tout à fait. Avant c'était seulement des missions. Maintenant il y a une petite histoire qui est assez anecdotique, mais qui est plutôt rigolo de suivre.
Et des nouveaux items surtout.
Des nouveaux items, exactement. Et la partie création, le cœur du jeu, s'est enrichi, parce que si avant on pouvait faire des jeux qui étaient très proche du genre plateforme, même s'il y a des génies mentaux qui arrivent à faire des trucs incroyables déjà avec ça. Maintenant il y a beaucoup plus d'éléments de mécaniques pour pouvoir faire vraiment tout type de jeu. On trouve déjà sur le PSN des jeux de cartes, du FPS, tout ce qu'on veut, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut avec Little Big Planet 2. Ce mode création, en fait, il est un peu intimidant quand on, voilà, quand on le voit.
Il faut
du temps et de la patience, mais réellement il y a tellement de choses possibles avec ça que c'est vraiment un jeu très intéressant.
Mais d'ailleurs, on vous renvoie à notre top 10 des meilleures créations. Alors on pourrait le mettre à jour parce que depuis il y en a eu des nouvelles assez bluffantes. Il y a eu un niveau Zelda par exemple, le tout premier Zelda sur NES, c'est le même quasiment, mais il y a quand même des choses assez dingues. C'est à dire que quelque part aujourd'hui maintenant avec Little Big Planet 2, on crée des gameplays plus que des niveaux, et donc on peut avoir du...
Exactement.
On a Windows, voilà.
Oui.
Il y a un mec qui s'amusait
pure
à créer
gameplay.
Windows. Voilà, Space Harrier, Doom, Wolfenstein, enfin, etc. Mais juste pour ceux qui, par exemple, justement, seraient trop intimidés, est-ce que l'expérience solo peut suffire quand même? Je sais qu'il y a des nouvelles créatures, des montures, on a un grappin maintenant. Est-ce que juste ça suffit ou finalement ce serait passé à côté de...
Elle est un petit peu courte, c'est, comme le dit Tra, c'est une dizaine d'heures, mais faut savoir qu'il y a plein de choses à compléter, plein de choses à récupérer. Il y a plein de mécaniques rigolotes avec ces petites bestioles qu'on peut chevaucher, alors les lapins, les hamsters, les chameaux, tout ce que vous voulez.
C'est
très rigolo. Ouais,
une
espèce de chameau mécanique qui fait penser un peu aux quadrupodes impériaux dans Attaque.
Chameau, c'est une boss? Ou
deux boss.
C'est deux boss.
Ouais.
J'arrive jamais.
Et surtout, on y a pas mal joué, nous, ici à la rédac, c'est les mini-jeux multi qui sont vraiment très rigolos. Alors, ça reste des trucs très simples, hein. Les petits jeux où on doit pousser l'adversaire dans le vide, un jeu de basket et tout machin. Mais ça fonctionne très bien.
Mais surtout même
quand tu pulvérises tout le monde à la rédac aussi.
Non, quand tu n'aimes pas créer et quand ça te fait peur, effectivement, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, tu télécharges.
Bien sûr.
Tu télécharges les créations des autres.
Bah oui, tu les télécharges, ça prend 10 secondes. Il y a un système de notation super bien foutu qui fait que tu télécharges. Tu télécharges pas les trucs qui n'ont pas été appréciés, etc.
Parce qu'il y a
tu les évites.
Bon et du moins bon.
Oui, il y a des trucs vraiment pourris. Mais tu trouves facilement les bons trucs, les trucs auxquels tout le monde joue, que tout le monde a bien noté, etc. Et ça te fait réellement des niveaux en plus pour le mode solo. C'est parfois même, au bout d'un moment, beaucoup plus intéressant que les niveaux qu'il y a à la base dans le jeu. Donc c'est pas infini, mais voilà, il y a toujours de la nouveté.
C'est un super jeu multijoueur. Au-delà des mini-jeux, tu as aussi des parties dans la campagne solo où
tu
dois jouer à plusieurs personnes pour aller récupérer certains objets.
Tu peux faire l'aventure solo à 4, jusqu'à 4 Sackboy.
Il y a une espèce de joie de vivre, je trouve, une joie de jouer quand tu es sur l'Italic Planet qui est vraiment agréable. C'est toujours rigolo. Les Sackboy, ils me font mourir de rire. Les musiques sont cool et tout. Vraiment, j'aime bien.
Alors sur le premier Little Big Planet, un de nos lecteurs nous avait créé un niveau Gameblog absolument dingue. Est-ce que
avec du Shenmue dedans,
créera un superbe niveau ou même un espèce de petit gameplay sympa, un mini-jeu Gameblog, n'hésitez pas, bien sûr, vous nous envoyez après un MP et puis on le publiera histoire que tout le monde puisse en bénéficier. On donnera l'adresse pour que les Gameblogueurs puissent venir jouer sur votre nouveau terrain de jeu. Mais n'hésitez pas, ça nous ferait et plaisir et beaucoup rire. En tout cas, on viendrait jouer sur votre terrain de jeu. Tiger, on continue avec toi, décidément. Quel mois incroyable au niveau des tests avec Tiger. C'est ça, Mario, Sports Mix. Là, on était dans du très bon.
Là, on est dans du moyen, médiocre. Bon, j'exagère un peu parce que c'est rigolo, Mario Sports Mix. Seulement, il joue dans un registre où la concurrence est féroce sur Wii. On a déjà le Wii Sport Resort
qui est
excellent, qui est super drôle, super bien foutu. Le Mario et Sonic qui est très complet, même si tous les sports sont pas rigolos, au moins c'est les JO, donc il y en a pléthore, surtout qu'il y a JO d'hiver, JO d'été. Et Wii Party.
Qui est mortel.
Sauf que dans Mario Sport Mix, on n'a que 4 sports.
Ça, j'ai pas compris.
Donc, qui certes sont rigolos, mais seulement, principalement 2, c'est-à-dire le volleyball et la balle aux prisonniers. Sachant que les deux autres sports sont le basket et le hockey, ce qui n'est pas nouveau, parce que c'était déjà dans Mario et Sonic. Donc, même là, si c'est Square Enix qui développe le jeu, du hockey avec Mario, ça reste du hockey avec Mario, quoi. On fait du hockey, on balance des carapaces et voilà. Donc, en solo, ça n'a quasiment aucun intérêt, parce que c'est relativement facile assez vite. Il y a des coupes comme dans les Mario Kart, un système très classique.
C'est un jeu multi, clairement.
Et alors en multi, nous on s'est bien amusé une bonne après-midi, mais après, on fait très vite ce tour du jeu.
C'est développé par Square Enix, il y a des petits personnages emblématiques de Square.
Bonus, tu peux avoir le Mog, le petit magicien noir, vous savez.
Ah, c'est bon, j'achète alors.
Il y a le slime aussi, non?
Je sais pas s'il y a le slime.
Il y a des chocobos.
Je l'ai pas débloqué. Il y a le thème des chocobos, en tout cas, parce qu'il y a des mini-jeux aussi qui servent voilà, des règles du volley, du basket, etc. Mais voilà, comme dirait Depardieu, c'est un peu court, tu vois. C'est... Après un Wii Sport Resort qui était vraiment excellent, qui est rejouable vraiment très souvent, là on passe une après-midi, on fait une partie de basket, on s'amuse pas vraiment plus que ça, un petit volet, et puis voilà quoi.
Et bah, la messe est dite pour ce Mario Sport Mix.
Mais en occasion, dans quelques mois, allez-y quoi. Si vraiment vous avez envie d'occuper un dimanche, ou je sais pas.
Ouais. Bon, voilà. On va conclure cette zone test avant de parler des news. On va parler dans quelques instants de Look at My Game, qui est une très belle initiative.
Le Game of the Month.
On va.
Dead Space 2.
Je sais pas, mais en tout cas pour les férus de Survival Horror, c'est clairement un titre indispensable. Ce que je veux dire. Ah bah si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à toutes vos interrogations.
Une nouvelle saga est née.
Ah bah ouais, c'est comme carrément. Ça. C'est comme ça que alors j'ai conclu le test. Mais
la peur en fait qu'on avait, surtout toi en l'occurrence, de se retrouver avec un épisode beaucoup plus action et beaucoup moins survival, a priori elle est dissipée.
Elle est totalement dissipée. C'est bien sûr très action, mais le premier l'était aussi. Hein. Et plus vous progressez vers la fin, ça devient assez costaud. Hein. Il faut être bien équipé, etc. Mais très clairement, ces petits moments où il se passe rien et qui pourtant font tout sont toujours présents. Et ça, c'est la force de Dead
Space. Ils sont même mieux mis en scène. Hein.
Ah, la mise en scène a été clairement améliorée. Le rythme a été amélioré. Pour moi, c'est le jeu de plus. Alors, ça peut parfois, sur certains jeux, quand c'est mal maîtrisé, devenir too much. Ouais. C'est bon, on a compris, vous en foutez plein la gueule, mais ça en fait un jeu boursouflé qui perd un peu son identité. Là, je trouve que c'est pas du tout le cas. Moi, en bémol, j'en ai deux. C'est bien évidemment l'effet de surprise du premier, sa fraîcheur, etc., n'est plus là. On reste sur un jeu qui est bâti sur les mêmes bases. Donc, c'est moins original. Mais très bien. Mais sorti de là, c'est toujours aussi maîtrisé. Et deuxième petit bémol, c'est les sorties dans l'espace qui pour moi était vraiment l'un des temps forts du premier. On se sentait totalement seul, il se passait plus rien, ce son qui s'étouffait, le battement de cœur, etc., qui donnait vraiment
le spoil.
Presque une c'était des petites séquences, mais qui donnait presque une poésie un peu macabre au jeu.
Mais il y a toujours des scènes.
Il y en a toujours, et elles sont d'ailleurs beaucoup plus spectaculaires. C'est-à-dire que là, on part carrément dans l'espace. Maintenant, en termes de gameplay, c'est même mieux parce que là, on bouge à 360 degrés, on se déplace comme on veut avec cette nouvelle combinaison qui a des petits réacteurs partout. Mais du coup, c'est un peu plus facile. Et moi, vraiment, j'invite tous les fans, connaisseurs du premier, à se mettre en mode de difficulté, non pas normal, mais cauchemar, je crois. Enfin, c'est l'équivalent de mode difficile, mais qui ne s'appelle pas difficile. Je me rappelle plus exactement comment il s'appelle, mais qui est finalement est plus l'équivalent du mode normal du premier, parce que le mode normal du deuxième, vous avez un tout petit peu plus de munitions, les ennemis sont un peu plus faciles à battre, et finalement, du coup, vous allez rentrer un peu plus dans l'art, avancer un peu plus vite, ce qui peut parfois être un petit peu dommage.
Et niveau histoire, par rapport, parce qu'il y a toute la mythologie Dead Space avec le monolithe, avec etc. Est-ce qu'on apprend des choses vraiment intéressantes? Est-ce que ça va plus loin?
C'est assez difficile de vous en parler sans vous spoiler là, mais
Jésus en fait à la fin.
Non, mais très clairement la secte de l'unitologie, en tout cas cette religion, est véritablement au cœur de l'histoire, ainsi que la relation entre Isaac et sa femme.
Qui a changé de gueule.
Je trouve un peu elle a pas exactement le même look. Bon, enfin bon, néanmoins ça c'est
il a peut-être changé
son design.
Il est un peu dingue aussi. Donc.
Ah, Isaac est complètement fracassé dans sa tête là.
Isaac c'est pas le barman dans la Croiseur s'amuse.
Mais si.
Non, alors il y a un truc aussi dont t'as pas parlé, c'est la réalisation, parce que c'est assez bluffant quand même. Quand tu vois notamment les éclairages, les effets d'ombre, de lumière, etc. Ça rajoute même un côté un peu flippant quand tu vois des portes qui sont juste entrouvertes et puis le halo lumineux qui...
Ah bah, très clairement, c'était déjà très réussi dans le premier. Là, ça a franchi un cap en termes de lumière dynamique, fumée volumétrique et ce genre de trucs qui vous mettent dans l'ambiance quand même. Il joue très bien avec la peur, dans le sens où il y a vraiment des moments, il joue avec l'obscurité totale. Et ça c'est fort, parce que du coup là vous êtes vraiment plus qu'éclairé à votre petite torche. Puis alors la gestion des sons est incroyable, les musiques et au-delà de ça les bruitages, vraiment si vous avez un son spatialisé, mais juste ça va être l'horreur chez vous, hein, parce que c'est vraiment très très efficace. Voilà, c'est Isaac parle, on le voit plus, ça aurait pu être un petit peu embêtant parce que c'est vrai que dans le premier c'était pas le cas et que du coup ça en donnait un charme au personnage un peu mystérieux. Là il est moins mystérieux, mais il est tellement toqué dans sa tête et il se passe tellement de séquences qui jouent avec ça que c'est assez fort. Il y a une séquence vraiment mémorable qui concerne un œil vers la fin, vous, voilà, qui vraiment vous reste. C'est vraiment un grand jeu, ça va vite, c'est nerveux.
Bon, non, le multi, c'est anecdotique.
Bah, honnêtement, ce qui est amusant en plus d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gameblogueurs qui le signalent dans leur statut, et je suis d'accord avec vous les gars, il n'y a pas grand monde pour l'instant sur le multi. Le multi n'est pas mauvais, c'est-à-dire que c'est du coopératif en affrontement, c'est-à-dire que c'est des équipes de 4 humains qui affrontent
contre nécromorphes.
Nécromorphes joués par des joueurs, et puis à chaque tour vous changez, vous alternez. Du coup, c'est pas bourrin, enfin ça peut l'être totalement, hein, mais c'est pas là où est le fun c'est plutôt de se cacher quand on est nécromorphe et sauter, prendre dans la gorge les humains. C'est vraiment pas mal, mais pour moi c'est exactement comme BioShock, c'est-à-dire que BioShock 2 qui avait un multi aussi alors que le premier n'en avait pas. C'est vraiment pour les éditeurs aujourd'hui crucial de mettre un multi en disant oh là là on a un multi, parce que si on en a pas, ils l'ont vu dans des playtests etc, que les gens disent ah y a pas de multi.
Voilà. C'est comme les bonus de DVD,
mais en fait les gens s'en foutent, parce que et BioShock et Dead Space c'est fait pour être joué en solo, l'expérience elle est là, donc c'est bien de l'avoir mis. Sorti de là, c'est pas clairement ça qui fera l'intérêt du jeu.
Bon.
Et sur la version PS3, il y a Extraction dans la version collector, et sinon faut l'acheter séparément
sur le
PSN. Et là,
et
c'est
ça vaut pas non plus grave le coup.
C'est pas foufou. C'est la version Wii lycée, voilà. C'est
un bon petit rail shooter.
Bah, c'est intéressant, ouais, un rail shooter, voilà. Pas trop mauvais d'ailleurs, et c'est intéressant pour la mythologie du jeu. Mais sorti de là, c'est pas indispensable.
Ok,
voilà. On passe à la suite.
Passons. Ben oui.
Oh, j'aimais bien là quand je juste à répondre à des questions. Fais gaffe, ce bruit.
Vous venez d'entendre, voilà.
C'est... Allez, on va passer. On va conclure ce podcast rapidement avec les news essentielles à retenir. On en a retenu quelques-unes. On va commencer avec, on l'a promis, hein, Look at My Game. Ouais. C'est la nouvelle société qui est donc en fait de la production collaborative créée par deux anciens de chez Exki, Romain Streichenberg.
Berger.
Et je suis désolé, Romain. et Clément Vidal.
Oui. Bah, c'est tout bête, hein. C'est exactement en fait le même concept que ce que tu mentionnais au départ, c'est-à-dire
My Major Company.
C'est-à-dire que voilà, on s'inscrit sur le site et on peut participer à la hauteur qu'on souhaite à la production de certains jeux. Pour le moment, il y en a deux. Hein, ça vient à peine de commencer, mais évidemment, il y en aura d'autres plus tard. Et bien évidemment, si ces jeux connaissent le succès, on sera aussi intéressé à leurs recettes. Donc, c'est un moyen de s'affranchir du financement habituel des titres pour les développeurs, d'être en prise directe aussi avec leur public, ce qui peut être
intéressant. Est-ce qu'on peut influer sur le développement ?
Alors, il y a évidemment un dialogue ouvert entre les producteurs du jeu et
les investisseurs.
Les internautes
voilà,
investisseurs.
Et ceux qui le développent. Après, ça sera certainement à la...
Étant donné qu'ils vont être très très nombreux, ça risque d'être le bordel quand même.
Voilà, mais non, mais ça sera aux développeurs de gérer vraiment limite, ce type de relation. Mais en tous les cas, les outils sont là et les forums sont là pour pouvoir participer au développement et s'en tenir informé quand on est producteur, évidemment, avec des vidéos déjà des jeux, des images et puis probablement plus tard aussi peut-être des démos. Ça vient à peine de se lancer, ça commence doucement. Moi, je pense que c'est toujours une bonne idée. Il faut voir effectivement si ça va fonctionner ou pas et quels seront les jeux qui sortiront de là, parce que après c'est comme My Major Company, il y a plein d'artistes qui ont été produits là-dessus qui sont pas connus. Tous
mais
les
films
pas
aussi
eu les
hein.
succès,
je sais plus quel site a fait ça aussi.
Dorcel.
Ah, c'est lui qui a fait ça.
Bah, oui.
Ah bah votre
mydorcel.com je crois.
Je sais plus ça. Oui, mais enfin c'est le même principe aussi. Ouais. Voilà.
Non, mais je parle sur des vrais films, hein, pas sur des films
caractère
bizarre.
Caractère bizarre.
Non, non, on est d'accord.
Enfin, on appelle ça comme ça maintenant.
À caractère
bizarre. Je le regarderai bien.
Mais oui, effectivement, il y a une boîte qui produit des films.
Il y a un film qui a été financé comme ça, effectivement, par les internautes.
C'est une nouvelle tendance assez forte et finalement c'est le 2.0 horrible, quel terme horrible, absolu quoi. Vous êtes acteur finalement de la production du média qui vous intéresse et donc potentiellement du jeu que vous avez envie de soutenir.
Voilà, c'est une méthode de financement pour du jeu indépendant en fait.
C'est donc, une belle initiative en tout
look
cas.
At mygame.com.
Voilà, et on est de tout cœur derrière cette initiative de Romain et Clément. Voilà. Autre information essentielle ce mois-ci, en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre, The Last Story sur Wii. Oui, non, non, oui, non. Il est en Occident.
Oui, oui, non, non.
Bon,
oui.
Tout est parti d'une interview que Rogamer UK exact. A voulu traduire un peu comme elle le voulait. Tout de suite, on vous l'a dit d'ailleurs dans la news, hein, on avait mis un petit bémol. On l'avait relayé parce qu'effectivement, ça prenait de l'ampleur. Mais nous, on avait des sources qui nous indiquaient quand même que c'était très bizarre, mais qui n'affirmaient pas non plus. C'est pour ça qu'on ne pouvait oui. pas non. dire non, non, c'est faux.
Elle avait mis en rumeur, hein, malgré les déclarations du... je me souviens plus de son nom, mais du responsable marketing, Nintendo UK. Ouais.
Bon, en gros, il a dit que rien n'était prévu pour le moment.
Ouais. Et ça s'est transformé en ne sortira pas.
Ouais. Ah, au secours ! Voilà. Faut dire que ça serait une grande perte, hein. Franchement. Enfin, j'ai pas joué au jeu encore, mais il m'excite particulièrement.
Il est sorti au Japon là, il y a quelques jours. On va bientôt connaître ses chiffres de vente. Espérons qu'ils sont beaux. Mais vous savez qu'en tout cas, c'est un titre donc, créé par Hironobu Sakaguchi et son équipe chez Miss Walker. Donc le père des Final Fantasy qu'on attend énormément à Gameblog. Et donc, clairement, pour vous donner la dernière update, oui, le jeu devrait très probablement, si ce n'est à 92%, sortir. Et il est possible 92. Que ce soit le même cas pour... oui, j'aurais pu dire 99.
92,2 en fait.
C'est ça.
Précisément.
Et ça devrait être exactement le même cas pour Xenoblade ouais. qui devrait d'ailleurs sortir avant.
Mais ce sont des jeux qui sont très lourds à localiser à chaque fois. C'est donc, ça. Bon, ça, donc ça prendra du temps.
Pas les attendre, en tout cas pour The Last Story, avant la fin de l'année, en tout cas l'automne chez nous en France. Mais en tout cas, voilà, rassurez-vous, The Last Story devrait vraiment... sortir. On passe très rapidement sur un dépôt de marque, Gears of War Exile, qui a été balancé comme ça. On n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il y a cette version Kinect qui traîne dans l'air, voilà. Cette rumeur.
Est-ce que ce serait ça ou pas ?
Moi, je pense qu'on en saura plus prochainement aux alentours de San Francisco.
Alors, rappelle-toi que c'est San Francisco, parce qu'apparemment,
c'est une ville. Ville.
Non, non,
ça, c'est une ville aux États-Unis.
Il y a, c'est la côte ouest. Il y a Microsoft qui prépare.
Des voitures qui sautent.
Un petit événement, exactement comme l'année dernière, pour parler un petit peu de ces trucs de l'année. Donc, je sais qu'il y a du Gears of War au programme. On verra ce qu'il y aura sur place. Mm-hmm. Et j'ai assez hâte de découvrir, justement, parce qu'on a quand même un peu la sensation que cette année, Microsoft est un peu discret au niveau licence sortie, etc. Ah ils ne sont pas au top top.
Comment te dire qu'en impression ? Oui, c'est sûr, puisque la seule et unique exclusivité pour l'instant annoncé sûr pour 2011
Gears of War 3
Alan Wake 2
et Alan Wake 2 c'est pas officiel encore pour l'instant. On sait qu'il y a du Forza Motorsport mais il n'y a pas de date à proprement parler. On sait qu'il y a aussi un titre exclusif du côté de Crytek qui s'appelle
Kingdoms.
Oui, Kingdoms. Bon, enfin, on n'en sait pas beaucoup plus. Ça fait quand même léger, effectivement, pour une machine qui, pourtant, se démerde plutôt bien au niveau mondial.
Et puis, on n'entend plus parler de Kinect, en fait.
Non.
C'est presque étonnant. Il n'y a pas de jeux qui ont été annoncés.
Non, mais je pense qu'ils attendent le 3.
T'as acheté Kinect, c'est bon, ouais, merci, bon, au revoir.
Le 3, c'était il y a quand même
longtemps. La machine se vend super bien.
Ah bah, pour Kinect, l'instant. C'est quoi
ils sont quoi 8 millions, 8 millions pour l'instant.
C'est ça, c'est un vrai carton.
Ah voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, les gens ont accroché aux premiers jeux qui sont sortis.
Oui, puis il faut pas oublier casual, que mais voilà, le grand public est moins exigeant en termes de
tout le temps
nouveauté,
de la nouveauté,
des trucs, etc. Ils vont commencer déjà à jouer avec ce qu'ils ont et puis... On verra après.
On rappelle que sur le marché français, en 2010, les meilleures ventes, ça a été du New Super Mario Bros. Wii sorti il y a moultas, du Mario Kart sorti il y a moultas. C'est vrai que le grand public a pas besoin, s'en fiche que.
C'est pas les cadeaux de Noël, c'est ça. Hein, c'est les trucs qui font
un Kinect Sport et compagnie, ça va vivre.
Et puis rentabiliser leur jeu, hein, parce qu'à 50€, 60€ le jeu, ils veulent y jouer à fond. Quoi.
Donc, c'est clair. Allez, on va conclure ce podcast justement avec le marché français et des chiffres, histoire d'avoir une photographie la plus précise possible de notre marché au niveau du jeu vidéo, avec les chiffres GfK, donc l'organisme qui fait référence en termes de volume de vente. On apprend ainsi qu'en France, c'est 920 000 Wii qui se sont écoulés. Elle est donc leader sur ce marché, mais
en 2010,
en 2010 bien sûr, mais talonnée de très près par la PS3 qui a véritablement connu un vrai engouement, enfin diront certains, un vrai démarrage avec 822 000 pièces, c'est-à-dire 100 000 de moins que la Wii, et un peu plus loin, soyons honnêtes, la Xbox 360 avec 550 000 pièces vendues en France en 2010, qui nous donne du coup très clairement, là on parle des consoles de salon bien sûr, très clairement la Wii qui domine largement de la tête et des épaules avec un total depuis le lancement de 5 millions de Wii vendus en France, suivi de la PS3 mais loin, très loin, 3 millions de PS3 en France et 2,2 millions de Xbox 360 avec clairement une dynamique pour la PS3 pour l'instant, une Wii qui, on a beau dire tout ce qu'on veut, se maintient très bien, qui domine toujours son marché, même si la dynamique est moins forte que les années
précédentes. Oui, attention, parce qu'en 2010, elle a quand même perdu pas mal de terrain.
Moins hégémonique.
Moins 17%, je crois,
par rapport à 2009. Donc il y a quand même un léger tassement, mais ils avaient tellement d'avance que...
Bah c'est ça, je pense que et Sony et Microsoft peuvent, rêveraient de connaître voilà. ce genre de tassement.
Mmh. Ils peuvent pour l'instant capitaliser là-dessus sans problème.
C'est une certitude. Et on rappelle quand même qu'à ce jour, la console la plus vendue n'est ni la Wii, ni la PS3, ni la Xbox, mais c'est la DS. Ouais. Et de très loin, puisqu'elle est aujourd'hui la console... la plus vendue de l'histoire en France.
C'est combien 150
Ah bah, pas en France.
Dans le monde, c'est 150, plus de 150 millions.
Ouais. Dans 150 millions.
En France, je crois que c'est 6 ou 7 millions.
Avec un tassement des ventes aussi sur la DS là récemment, mais tout en sachant que la 3DS arrive.
Bah oui,
c'est très prochainement.
Ça s'est tassé significativement à l'annonce de la 3DS, logique. C'est normal.
Voilà, en tout cas, comme ça, les choses sont claires. On pourra, on peut comme ça aborder 2011 sur de bonnes bases. On redressera bien sûr le bilan. On va suivre un petit peu l'évolution des ventes des consoles, des jeux et de tout ce qui se passe. Vous l'aurez compris, en tout cas, à l'écoute de ce podcast très riche, très dense, que l'année 2011 s'annonce belle. Hein, si vous êtes joueur, pour ceux qui craignent une casualisation, etc. Vous avez vu, on a parlé de vraiment plein de jeux qui s'adressent à vous, hein, les gamers. Il n'y a pas de doute là-dessus. On voit qu'il y a énormément de choses, et en tout cas c'est bien d'avoir vu la réponse de Nintendo et de Sony au marché de l'iPhone, de l'Android. C'était notre débat, notre grand duel de la semaine dernière,
et je trouve justement que du côté de Sony, en tout cas, on a très bien répondu à cette problématique.
Oui.
En tout cas, il va falloir, du point de vue des développeurs, c'est ouais. évident quoi.
Mais pour
c'est
les clair. Joueurs, il va falloir travailler plus pour jouer plus. Hein.
Et pendant ça va chauffer la carte bleue. Ouais.
Hein, et pendant ce temps, je refais King Quest 1 sur PC.
Bravo, gratuit.
Téléchargez-le aussi.
Pas cher mon jeu.
Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur Gameblog.fr. D'ici là, vous pouvez commenter votre actualité dans les forums, c'est juste en dessous sur Gameblog.fr. À très bientôt, et on vous le rappelle, la semaine prochaine, c'est l'arcade. On vous l'avait promis, ça y est, il arrive. Allez, à bientôt, jouez
ciao.
Bien et surtout portez-vous.
Ciao, jouez bien et mangez bien et dormez bien, adieu.